Nul. J'ai pas mis à jour ma notification qui vous a annoncé à ceux qui ont reçu la notif. Parfois ça bug du côté de chez Twitch, ce truc. Une hebdo Étienne. Non, c'était hier soir, bien sûr. Si vous avez pensé que l'hebdo Étienne du vendredi soir était ce matin, c'est que vous n'avez pas vu celle d'hier soir. Et ça n'est pas bien. Donc non, hein. Non mais en vrai, entre l'hebdo Étienne d'hier soir, la matinée Étienne de ce matin, l'exposition Étienne. Merci Randy Random, je vais te remercier dans un instant. L'exposition Étienne de ce soir, 20h, en direct du musée Guimet. C'est notre, je sais plus moi, 5e, 6e musée ensemble, je sais plus. Avec Marie Palot et avec Foki, on va se régaler. Voilà. Mais du coup, je m'y perds un petit peu dans mes notifs. Bon anniversaire Randy Random. Est-ce qu'on peut souhaiter un joli et doux et lumineux anniversaire à Randy Random qui fête son 17, 25, 30, 50, 70, 250, je sais pas. Merci en tout cas pour les 5 abonnements offerts à la commune. Tiens, on va zoomer un petit peu pour fêter ça. Voilà. Ah, super. C'est ton anniversaire, c'est toi qui offres les subs, tout va bien. Donc oui, je m'y perds un petit peu, mais en même temps, il y a une espèce de frénésie streamiesque ou twitchesque, puisque j'ai été privé de vous pendant 4 jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin, je n'ai pas pu streamer le matin, pas de revue de presse, because bah, c'était les tournages de questions pour un champion, le réveil sonne à 6h30, donc c'est un peu la grasse mat, et puis... Et du coup, j'enchaîne, mais du coup, c'est impossible de vous présenter les journaux, puisque, en gros, le PAT, le prêt à tourner, comme on dit dans notre jargon télé, il commence à 9h. Donc, c'est râpé, quoi. Donc, un petit peu en manque, quand même, de ma dose de vous. Et bah, du coup, on stream pas mal dans cette fin de semaine. Hier soir, il y avait l'hebdo Étienne. Je suis très, 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 très content. Des petites améliorations, notamment techniques, hein, c'est tout bête, mais je suis un peu maniaque, qu'on apporte doucement avec Joe. À cette émission, il y a des trucs sur l'image et sur le son hier qui m'ont bien plu. Donc ça, c'était hier soir. Ce matin, petite revue de presse à la cool. Ce soir, l'hebdo Étienne. Non, l'exposition Étienne en direct du musée Guimet. Je vais y arriver. Et demain matin, on va streamer de la presse. Hein, demain dimanche. Lundi matin aussi. Voilà, parce que ma petite famille est partie en week-end. Donc voilà, je ne suis que pour vous. Monsieur J, merci beaucoup pour cet abonnement. Randy Random, encore merci pour les 5 abonnements offerts à la commu. Mike, avec des L et des X, merci beaucoup pour le gentil message et le 4e mois. Anne, merci pour le 10e mois. Ninja, Lex37, merci pour le 2e mois d'abonnement. Bonjour à toi. Kylian Loire, merci pour le 8e mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Ah, merci, Mister The Two. Le setup d'hier soir était parfait. Ouais, je suis content. C'était la 33e hebdo Étienne. Et à chaque fois, en fait, on essaye de... Comment dire, d'améliorer un petit peu, hein, le setup. Et ouais, hier, il y a eu un petit gap de franchise. C'était assez cool, quoi. Ouais, j'étais content. On va peut-être regarder quelques images, d'ailleurs, pour voir de quoi on parle. On va parler un tout petit peu aussi de l'exposition Étienne de ce soir en direct du musée Guimet. Parce que là aussi, il y a des petites nouveautés. Et puis on va lire les journaux, je vous ai mis des chouettes articles de côté. Voilà, je me suis réveillé assez tard ce matin, mais j'ai lu assez vite. Donc en vrai, c'est cool, quoi. Je vous avoue que j'avais pas mis de réveil exprès ce matin. Je me suis dit, on va voir comment le corps se réveille. Dans quel état, en quelle forme, avec quelle envie. Je me suis réveillé frais comme une rose. J'ai vraiment super bien dormi et avec très, 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 très envie de streamer ce matin. Voilà. Merci à Joe aussi, bien sûr. Bah oui, on fait ça à deux. Hein. On fait tout ça à deux. Hein. C'est comme un double cerveau, quoi. Voilà. Merci la cuvette pour le Prime. Merci Monsieur J pour l'abonnement à faire à Juju de Pomme encore. Bon, tiens, j'ai envie de faire ça pour commencer. On va aller justement aller regarder un petit peu les petites améliorations sur l'hebdo Étienne et je voudrais votre avis là-dessus. Oh là là, Wanir nous annonce en mode tout discret, voilà, tout calme, et pourtant c'est une nouvelle énorme, gigantesque. Wanir écrit: bonjour Samuel, petite news perso, c'est une fille. J'aimerais bien avoir une petite fille un jour moi aussi, ce serait rigolo. J'ai deux petits garçons pour l'instant. Félicitations Wanir, ça c'est cool. Ah merci Wise Lives, ah c'est gentil. Oh, mais ça me touche, merci pour ton message. Allez, allons voir le stream d'hier. Vous allez comprendre ce que je vous dis quand je vous raconte qu'je suis assez content de ce qu'on a amélioré. Là, je suis en train de me voir sur ma propre chaîne, c'est un exercice très bizarre. Hop, voilà. On va sur les replays. C'est là. On va enlever le son. C'est fait déjà. Voilà, regardez. Là, il n'y a rien, c'est normal. Hop, là, vous l'avez. Alors, voilà, ça, c'est l'émission d'hier. Peut-être qu'on va mettre une autre. Peut-être si je passe comme ça. Et en mode studio, peut-être. Eh, hey, pas mal, ça. Et si je passe en mode... Excusez-moi, je fais un petit réglage. Ah, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Donc, de quoi je vous parle? Tiens, regardez. Bon, déjà, la lumière. La lumière, j'étais... La lumière sur mes invités, j'étais assez content sur le résultat sur lequel on était arrivé avec Joe. Bon, c'est fait un peu artisanal. On a quatre petites lumières à le gâteau, là. Voilà, que sont bien connues des streamers, qui sont les trucs basiques. Là, vous voyez, c'est les... c'est ce qu'il y a derrière la tête de Rive là et juste à côté de la tête de Paul là, vous le voyez pas derrière. Attendez. Hop, je vais réduire ma petite tête moi. Voilà, vous allez. Je me réduis tout petit. Voilà, vous voyez les lumières là. Bon, j'en ai quatre comme ça, deux ici, de l'autre côté en face. Et en fait, les invités ça allait, mais moi j'étais un peu dans le noir et un peu tout rouge aussi avec les néons qu'on avait derrière. C'était pas très très joli. Voilà. Du coup, j'ai bougé un peu les faces, les lumières faces. Je les ai un peu boostées. On a un peu travaillé sur la lumière. Et on est arrivé à ce résultat que je trouve un peu plus intéressant. C'est pas encore top, mais c'est pas mal. Ça, c'est une petite amélioration, mais c'est pas la plus importante. Alors, regardez, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Ah, ça c'est bien. Là, je suis très content. Bon, là, c'est l'ami Eric hein, qui vient cuisiner le vendredi à la maison. Là, vous retrouvez, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, Paul Arrivé, le journaliste de l'équipe spécialisé e-sport, génial de le rencontrer. Il m'avait rappelé qu'on s'était croisé déjà sur mon premier The Event. Il, au milieu, avec le sourire de Ravi de la crèche, c'est moi. Ici, vous avez Mimi Hegel, avec qui je vais faire un podcast dimanche autour du cinéma. Ici, vous avez Eric, alias Cheat Meal Hero, streamer et passionné de cuisine, qui nous présente ses petites créations qu'on déguste le vendredi, ça c'est cool. À gauche, Pépin, que vous adorez, que vous connaissez. La graphiste, la dessinatrice qui a fait notamment les émotes de cette chaîne et l'alerte enfant, et puis bien sûr Rivenzi, comment ne pas le connaître. Et donc là pour la lumière sur eux c'est cool, voilà, vous voyez c'est un peu moins rouge, un peu moins sombre, ça c'est cool, mais c'est pas ça le truc dont je suis plus content. Je vais vous montrer, je cherche un plan, ouais c'est ça. En fait, avant, les caméras qui étaient sur les invités étaient donc du côté de la réalisation, du côté de Joe, ok ? Donc, vous voyez là, les quatre personnes, les quatre invités me regardent parce que je parle tout le temps, enfin, on échange, donc naturellement, elles me regardent. Et sauf que du coup, les caméras qui n'est pas ce plan-là, hein, qui filmaient touc, les invités, les filmaient de dos. Puisque c'est assez naturel en fait qu'ils me regardent. Et donc on voyait beaucoup leur profil, leur dos, mais on ne voyait pas leur regard, ce qui est sur une émission de débat et d'échange, ça n'allait pas. Et donc ça a commencé par la remarque d'un copain réalisateur de France 3, un des deux réalisateurs de Questions pour un champion, qui se trouve être un ami d'enfance par ailleurs, avec qui j'étais à l'école, ce qui est un peu rigolo. Il me dit « Ah, c'est bizarre, tu n'as pas les regards caméra de tes invités. » J'ai dit « Bah oui, parce que... les caméras, elles sont là, mais tu devrais les mettre de l'autre côté, c'est-à-dire là on les voit pas, mais elles sont à côté de moi, les deux caméras invitées, on les devine derrière Pépin et derrière Mimi. Si on fait attention, il y a deux caméras ici, voilà. Et donc maintenant les caméras sont là, sauf que ça nous a, on a fait quelques modifs parce qu'on n'avait pas les câbles qu'il fallait, on a acheté des câbles un peu plus longs, on a changé un peu la solution technique, on passe par des boîtiers, donc on a un peu investi. Et maintenant, et ça c'est cool, ben voilà. Attends, là on avait justement, voilà. On avait un plan qui était intéressant parce qu'on avait les deux. Là, par exemple, on voit que la caméra, elle est à côté de moi et elle regarde les deux invités dont on a beaucoup plus les regards. Beaucoup plus les regards. Je vous cherche un plan où c'est évident. Voilà, donc là, on avait Paul et Mimi. Voilà. Oh, wow, yes ! C'est ça que je voulais vous montrer. Avant, en fait, on avait le profil et un peu le dos des invités. Ben, maintenant, on a vraiment leur visage et le regard parce qu'on a bougé les caméras. C'est pas grand-chose, vous voyez ? C'est pas grand-chose, mais... c'est beaucoup plus, ça donne beaucoup plus de présence aux invités, voilà. Et mine de rien, même si tout le monde s'était pas rendu compte de ce tout petit défaut de l'émission au niveau de l'emplacement des caméras, bah, la remarque de Karl, donc le réalisateur dont je vous parlais, puis quelqu'un d'autre l'avait dit un peu plus tard à Joe aussi, était assez fondée, et on a cherché la solution et on l'a trouvée, donc on est assez content de ça, voilà. Et puis sur le son aussi, et je vais vous en parler, on a bien bossé. Vous en pensez quoi, vous? Merci à Rhapsody in Blue pour le 21e mois, merci beaucoup. Voilà. Ah, merci. Mister de tout, que j'ai cité tout à l'heure, me dit ça rend vraiment le live organique, c'est quelque chose qui manquait. Je suis très content. C'est bête, hein. C'est les petites choses, mais moi, je suis un petit peu maniaque. Et alors, ça met le temps, parce qu'à chaque émission, on se dit des choses. La semaine dernière, on avait un vrai problème de son. Au début, un grésillement qui. Bon, ça le faisait, hein. Mais qui, moi, me. Je me dis non, c'est pas cool, le son c'est hyper important sur Twitch. On avait un grésillement sur mon micro et puis on a trouvé après avec Joe d'où ça venait et donc supprimé quoi. Donc c'est des petites choses comme ça. Et c'est pas terminé puisqu'on va continuer à améliorer cette émission au niveau du son, de l'image et puis du fond et de l'éditorial, bien sûr. Il y a Chevalier Creux qui me demande à l'instant est-ce que l'hebdo Étienne reviendra en septembre. Oui, ça c'est mon hyper intention. Je suis en train de discuter pour continuer à trouver le parrain, le sponsor qui peut me soutenir dans cette aventure, parce que j'ai besoin d'un peu de sous pour faire cette émission qui me coûte un petit peu de sous. Donc je suis très très confiant pour une saison 2, voilà. Et cette saison 2, ce sera l'occasion de continuer d'améliorer la forme et le fond. Je commence à réfléchir à la manière dont je pourrais un peu améliorer, pas seulement au niveau de l'image et du son, c'est très très bien, mais l'hebdo Étienne sur le fond, hein, sur, voilà. Et je me dis, bon, c'est bien hein, cette première saison, mais je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux que ça. Et je dis fin de saison parce qu'il en reste une vendredi prochain. Ce sera la 34e et dernière Hebdo Étienne de cette saison. Voilà. Le Leken écrit, ça change vraiment tout. C'est vraiment ces nouveaux angles de caméra, c'est tellement mieux. Yes, 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 yes. Oh, ça vous plaît. Ça me fait plaisir. Setup hier soir, très bien. Ah, merci. Ça me fait plaisir. Ouais. Ah, cool. Ouais, il faudrait une table en trapèze pour un angle meilleur pour les caméras. Oui, après, on peut investir. Mais bon, comme je viens d'acheter cette table, je vous avoue que le sujet table est un sujet pertinent. Mais comme je viens de l'avoir celle-ci et qu'on n'a pas des budgets infinis, on va d'abord faire avec cette table. Mais c'est juste. Mais c'est juste. Ah. Ouais. Peut-être encore un petit travail sur la lumière. Et justement, j'ai un copain, Olivier, qui travaille sur la lumière à France Télévisions, qui, avec Karl, le réalisateur dont je vous parlais, va passer vendredi voir le setup. Et avec le regard de pro, alors pas du stream, mais de la télé, vont regarder avec les moyens que j'ai, qu'on a, avec les caméras qu'on a, avec la lumière qu'on a, comment on pourrait améliorer le tout. Et éventuellement, quels investissements je pourrais faire pour rendre le rendez-vous encore plus sympa, quoi. Donc j'ai deux amis qui sont du monde de la télé, mais pas du stream. Mais les questions de lumière et d'image, en fait, on se rend compte que ce sont les mêmes, en fait, hein, dans les deux univers. Voilà. Là, on a une grosse réflexion sur le son, parce que vous savez, je suis en train de travailler sur une émission sur le gaming, voilà, avec peut-être deux numéros, deux before, deux émissions bêta, test. En juin, voilà, j'en dis pas plus. Et là aussi, ben, du coup, c'est un nouveau setup, c'est une nouvelle réalisation, c'est un nouveau son aussi, puisque les micros que j'ai là pour une émission gaming, pour ce que je veux faire, ça le fait pas. Donc là, je suis en train de bosser là-dessus aussi. Voilà. Ah, il y a un concert d'Offspring jeudi. Ah, cool, impeccable. Ouais, voilà. Et puis, bah c'est à peu près tout en fait sur l'émission, hein, sur l'émission d'hier. Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, mais c'était sympa, c'était pas mal. Au début, Rive était à Roland-Garros, donc Eric s'est installé à sa place. Et là, c'est mignon. On vient de voir le petit message que Rive nous avait envoyé depuis le taxi, depuis sa voiture, alors qu'il nous rejoignait. Voilà. Bien sympa cette petite émission. C'est en replay, bien sûr. C'est en replay gratuitement sur ma chaîne Twitch et également sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ça, c'était pour hier soir. Ce matin, la revue de presse, on va lire les journaux. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous. Là, on va se régaler. Bah, tiens, on va aller voir le visuel. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h, toujours sur ma chaîne, pour l'exposition Étienne. On va compter, je ne sais plus où j'en suis. On a streamé en direct de la Fondation Louis Vuitton, 1. En direct du Louvre, 2. En direct du musée d'Orsay, 3. En direct du muséum de Bordeaux, la première fois que j'ai invité quelqu'un pour m'accompagner, pour le découvrir, c'était Jamy Gourmaud, 4. En direct du musée du Quai Branly, oh, c'était bon ça, c'était magnifique, avec Étoile, ça fait donc 5. Et donc c'est le 6e déjà, 6e exposition Étienne, ce soir, en direct du musée Guimet, son nom complet c'est Musée National des Arts Asiatiques Guimet, voilà. Hop, je vous montre la petite bande-annonce que j'ai préparée à cette occasion, que je trouve assez jolie. Et voilà l'événement qui vous attend ce soir et avec qui ça va se passer. Je recommence, je voulais réduire ma fenêtre pour que vous voyez bien. Allez, c'est deux fois, c'est parti. Vous avez gagné un autre tour de manège. Waouh, eh, en vrai, ça bosse, hein, hein. Ça bosse, hein. Vous en pensez quoi? Hop, je remets les petites fenêtres qui vont bien. Voilà. C'est pas mal quand même, hein. Voilà, ça, voilà, c'est ce soir. Rendez-vous à 20h. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux, c'est mieux. Attendez, voilà, c'est ça. Voilà, même petit réglage maison. On est toujours sur l'artisanal ici. Donc ça veut dire que ça, je peux le... Je sais plus, je suis perdu. Attendez. Attendez, je suis sous quelle scène, là? Ok, c'est Google. Ok, d'accord. Ok. Ok, 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 voilà, 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 donc c'est pas mal, hein, ouais. Donc rendez-vous ce soir, et alors c'est pareil, l'exposition Étienne, on essaie de l'améliorer à chaque fois, les petits visuels d'annonce commencent à être cool, hein, vous avez vu, mais ce qui est encore mieux, c'est le fait que je suis accompagné ce soir par deux créatrices de contenu. Donc Marie Palot, que vous connaissez bien sûr, journaliste spécialisée manga, jeux vidéo, youtubeuse, streameuse aussi, et Fakir, du nom de sa chaîne Twitch, alias Foki, qui est une streameuse aussi, qui est une passionnée d'art, de dessin, de peinture. Et donc je trouvais cool en fait qu'elle nous accompagne aussi. Donc deux invités ce soir, attention, on met les petits plats dans les grands, qui vont m'accompagner dans cette exposition Étienne au musée Guimet, le musée national des arts asiatiques. Voilà. On sera accompagné aussi bien sûr par des spécialistes, des experts, les responsables du musée Guimet, et ils sont assez nombreux. Ça va être très rythmé. Il y a notamment ce soir une exposition qui vient de débuter au musée Guimet sur l'histoire des médecines d'Asie, voilà, qui est étonnante. D'abord, on apprend un milliard de trucs, mais qui est belle, voilà, surtout la scénographie est vraiment super réussie. Ça ressemble un petit peu au travail qu'a réussi le musée du Quai Branly où on était il y a quelques semaines. Voilà, c'est magnifique, je l'ai vu, j'ai eu la chance de l'avoir un peu en avant-première en préparant le stream. Donc vraiment, en plus elle va arriver assez vite cette exposition temporaire, c'est un peu le gros morceau du stream de ce soir, et ça va vraiment être joli, faites-moi confiance. Alors il y a une petite prouesse technique, voilà, on a pas mal bossé, Joe me disait hier soir qu'il est allé 4 fois, il s'est déplacé 4 fois au musée, parce qu'en fait cette exposition temporaire dont je vous parle sur l'histoire des médecines d'Asie, en fait elle est au moins 1. Elle est au moins 1. Alors, pour qui connaît un petit peu la complexité de streamer IRL en extérieur, moins 1, c'est, comment dire, c'est embêtant. Moins 1 sous-sol, ça veut dire pas de réseau. Ça veut dire pas de 4G, ça veut dire pas d'Orange, pas de SFR, pas de Bouygues, etc. Donc, tu peux additionner toutes les connexions que tu veux avec le matos que tu veux. Au moins 1, tu ne streames pas. Tu n'as pas de réseau. Et donc là, il faut du Wi-Fi. Et c'est très compliqué de streamer avec un Wi-Fi dans un bâtiment parce que tu te déplaces. Voilà. Si tu ne bouges pas comme ici, aucun problème, bien sûr. Mais quand tu te déplaces, le Wi-Fi, il faut que tu ne le perdes jamais. Donc il faut des bandes, des répétiteurs, des trucs, un réseau de fou. Jusque-là, on s'était toujours refusé à le faire parce qu'à chaque fois qu'on avait essayé de streamer en Wi-Fi en se déplaçant, on s'était rendu compte que c'était quasiment impossible. Et bien Joe s'est déplacé 4 fois avec le responsable technique du musée, voilà, pour réussir à streamer au moins 1 ce soir, voilà, sans perdre la connexion, voilà, et normalement, ting, on croise les doigts, ça va bien se passer. Sachant que s'il y a une toute petite perte de co à un moment, si on perd la connexion pendant 15 secondes, 30 secondes, une minute, bien sûr, l'ami Pépin qui était hier soir dans l'hebdo Étienne, Pépipin, elle sera en régie quelque part dans Paris. Le signal du stream partira de son ordinateur, ce qui lui permet d'intervenir n'importe quand pour reprendre la main, pour meubler, pour discuter avec vous, le temps de régler la reprise de connexion en fait. Donc ça c'est un truc qu'on a mis en place à Bordeaux pour la première fois, ce qui vous garantit en fait d'avoir un stream qui n'est jamais interrompu. Ça c'est une petite nouveauté qu'on a mis en place, donc ça va le faire. Voilà, c'est cool hein. Allez, je réponds à quelques-unes de vos questions et puis je vous lis les journaux. Je remercie Novaxis82 pour le 19e mois d'abonnement, Tangerine Nightmare pour le 4e mois d'abonnement, Kirepux pour le 21e mois d'abonnement, et encore merci Rhapsody Input pour le 21e mois. Vous êtes au maximum. Ça fait une belle équipe ce soir, entre Marie Palot, Foki, Pépin, Joe, Papy Sam. Waouh, hein, comme le dit Arthur, sacré logistique de prévu. Ouais, c'est du taf quand même. C'est du taf, voilà. Donc c'est pas mal de prépa, hein, entre la prise de contact avec le musée, les rendez-vous d'échange, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on montre, comment, c'est quoi Twitch, comment ça fonctionne. Quelle durée, quels interlocuteurs, qu'est-ce qu'on met en avant, les repérages techniques, la lumière, le son. On a un ingénieur son, hein, on a un ingé son maintenant qui nous accompagne depuis la dernière fois, qui pose des micros HF à tout le monde et qui gère le son avec sa table de mixage qu'il a avec lui, quoi. Donc ouais, c'est pas mal de prépa, mais bon après quand on le fait c'est cool quoi. Il y a Pussy qui demande comment ça fonctionne, comment vous faites pour avoir le droit de faire ces visites nocturnes, est-ce qu'il faut longtemps pour avoir des autorisations, vous les demandez à qui? Ben en fait c'est une discussion directe avec le musée en fait, hein. Bon, je dis, en fait là c'est avec le directeur du musée en l'occurrence et son équipe avec qui je discute directement pendant de longues semaines en fait pour alors c'est pas une question d'autorisation parce que souvent la demande vient d'eux, hein, c'est eux qui sont plutôt demandeurs, mais c'est plutôt comment on fait quoi. Voilà. Allez, alors Scrub, c'est très intéressant ce que tu dis, mais je pense que tu n'as jamais regardé en fait ces streams en musée. C'est ennuyeux parce que tu Scrub il dit ah mais pourquoi tu invites telle personne, ce serait mieux d'inviter des experts. Je pense que tu n'as regardé aucun de ces streams que je viens d'évoquer, puisque c'est le sixième, que dans ces six streams à chaque fois nous ne recevons que des experts, les spécialistes du musée, les conservateurs, des gens qui y consacraient leur vie, les responsables des musées. Donc je pense que tu n'en as regardé aucun. Et qu'effectivement, depuis quelques streams, j'invite en plus des amis, des gens que j'aime, pour découvrir avec moi ce musée, accompagné par toujours les experts. Mais donc je pense, pour faire cette remarque, tu n'as jamais dû en regarder. Il n'y a aucun souci, tout est en replay, mon ami, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Julio, est-ce que Étoile m'a un peu conseillé au vu de son expérience en stream musée? Non, je t'avoue qu'on est très contents tous les deux de faire ce genre de truc. En fait, si tu regardes en fait le timing, on a commencé en même temps, puisqu'on a fait notre premier stream musée tous les deux, je crois, à une semaine ou deux d'intervalle, il y a quelques temps. Et donc, on a mené notre petite aventure de chacun de notre côté, content de s'intéresser aux mêmes choses, en se parlant pour éviter de faire les mêmes établissements. Au même moment, donc moi je dis toujours, et Étoile me dit toujours, quand il va streamer, dans quel musée, pour éviter de faire les mêmes choses bien sûr, et puis pas de streamer au même moment. Après sur le plan technique, c'est à peu près toujours les mêmes solutions, avec des choix techniques qui sont différents, mais moi je suis un petit peu, j'aime bien aussi inventer mes propres solutions. Donc on échange sur le plan éditorial, pour pas faire la même chose, mais pas sur le plan technique. Mais on pourrait en fait, c'est pas une mauvaise idée. Pour le musée Guimet, je sais plus. Lost in Amaze me demande, est-ce que c'est moi qui ai eu l'idée de visiter le musée Guimet ou c'est eux qui m'ont demandé? Je sais plus. Parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Je ne sais plus. Voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que vous me donnez un petit go pour la revue de presse de ce matin? Benny Tooner, merci pour le 14e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un petit go? Sachant que j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est que la semaine prochaine, j'ai encore un peu en question pour un champion, donc mardi, mercredi, jeudi, pas de stream le matin, mais lundi je stream, vendredi matin je vais streamer, vendredi soir dernier hebdo Étienne, et après on part pour 4 semaines où je ne fais que France Info, et donc je vais streamer quasiment tous les jours du mois de juin en revue de presse, voilà, le matin, et ça j'en suis très content, avant une petite pause de 3 semaines au mois de juillet. C'est parti, je vais vous montrer les journaux que j'ai lus ce matin, mais d'abord je suis interpellé par Thiel Paris sur un sujet dont j'avais prévu de vous parler, qui n'est pas dans les journaux, dans les versions print ce matin, je pense que c'est peut-être dans Le Monde de cet après-midi, parce que Le Monde a déjà sorti un article sur son site internet. Je veux parler de l'affaire Patrick Cohen. Thiel Paris me dit, est-ce qu'on parle de Patrick Cohen ou pas? Quel dommage qu'il ne vienne pas sur France Info, la radio, et qu'il quitte Radio France et l'esprit public. Qu'est-ce que j'en pense? Je ne sais pas ce que j'en pense parce que ça vient de se passer, mais on peut aller regarder. Par contre, ne serait-ce que pour informer tout le monde de l'affaire Patrick Cohen. Bon, on ne va pas y passer 10 heures hein, parce que c'est une affaire médiatico-médiatique. Hein. Voilà, c'est un peu de la salade de journaliste. Mais ce n'est pas inintéressant parce que ça éclaire un petit peu... le fonctionnement des médias aussi. Voilà, regardez, j'ai trouvé l'article du Monde auquel je suis abonné, donc on y a accès, sinon c'est réservé aux abonnés. Si vous le cherchez sur internet, cet article, en fait, vous n'en aurez que les premières lignes. Un contenu de qualité, ça se paye, hein, évidemment, il y a du travail derrière. Ici, c'est un article d'Aude Dassonville, excellente journaliste média du Monde qui a longtemps travaillé pour, si je ne dis pas de bêtises, Télérama, ça je suis sûr, peut-être Libération. Et donc bah ça c'est un coût bien sûr, et cet article il n'est pas en accès libre. Donc l'histoire Patrick Cohen c'est quoi? Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un journaliste qui est reconnu pour son professionnalisme, la qualité de son travail, de ses interviews, qui a fait pas mal de choses dans sa carrière déjà. Il a travaillé à France Inter je crois, il travaillait à Europe 1 notamment, et là il y a un pataquès, hein, pour vous résumer l'histoire, c'est un pataquès. Quel est le pataquès? C'est qu'il quitte Radio France. Il claque la porte. Il dit qu'il a été sollicité pour présenter la matinale de France Info, la radio. Hein, puisque Marc Fauvel, l'excellent présentateur de cette matinale, après 6 années de matinale de France Info, la radio, dit bon, c'est super de se lever à 2h du matin, je suis un peu crevé. Donc on va faire autre chose. Patrick Cohen dit qu'on lui a proposé cette matinale, qu'il a accepté, puisqu'il était, et je crois qu'il a présenté la matinale de France Inter déjà dans le passé, il était très heureux de revenir à la radio. Et sauf qu'entre-temps, eh bien, la direction a changé et il a claqué la porte. Je lis l'article du Monde. Le 2 juillet, Patrick Cohen donc présentera la dernière émission de l'Esprit Public qu'il assurait chaque dimanche, c'était une hebdo, sur l'antenne de France Culture depuis la rentrée de 2021, alors qu'il s'apprêtait de revenir sur France Inter par la Grande Porte, puisque le directeur... sur France Info, pardon. Puisque le directeur de France Info, Jean-Philippe Bay, lui avait proposé de présenter la matinale, comme je vous le disais, que Marc Fauvel s'apprête à quitter pour diriger la rédaction de France Inter. Attendez, c'est bizarre. Attendez, j'ai un petit bug. Assez étonnant. Alors, je ne sais pas si vous avez le même que moi. Ouais, c'est bon, je trouvais un petit bug dans le chat, hop, je vous remets l'article, parce que ouais, j'ai l'impression que le chat ne marchait pas, il marche le chat, ça va. Et donc, Patrick Cohen dit que Jean-Philippe Bay, le patron de France Info, la radio, j'ai toujours la radio parce que moi je travaille à France Info, la télé, eh bien, lui a proposé de présenter la matinale. Bon, il faut savoir que la matinale en radio, c'est le 20h. C'est la tranche d'information la plus exposée, c'est celle qui fait le plus d'audience en fait, et donc c'est très prestigieux. Parfois aussi c'est là qu'il y a les meilleurs salaires accessoirement, puisque à un moment il faut bien bouffer aussi quoi. Donc on lui propose, dit-il, cette matinale. Sybille Veil, la présidente de Radio France, merde, j'en mets l'article, la grande patronne de Radio France, a priori dit ok. Donc vous avez le patron de France Info, la radio, qui dit OK, la patronne de Radio France qui dit OK, et puis Patrick Cohen va à Cannes, puisqu'il travaille pour C'est à vous, l'excellente émission sur France 5, où elle s'était délocalisée. Donc il part à Cannes, et sauf que depuis Cannes, il apprend que, eh ben en fait, non, ça va être non, quoi. Pourquoi? Parce que Laurence Bloch, qui, elle, était en vacances en Grèce, on saura vraiment tout dans cette histoire, eh bien, elle n'avait pas donné son accord, elle n'avait pas été consultée. Qui est Laurence Bloch? Donc, c'est l'ancienne patronne de France Inter, je crois. Désormais, elle est directrice des antennes, la stratégie éditoriale auprès justement de la direction de Radio France. Et en fait, elle dit non. Elle dit non, c'est une très mauvaise idée. Elle dit que le retour de Patrick Cohen sur une matinale sur France Info serait une très mauvaise nouvelle pour la matinale de France Inter. Ok, vous suivez toujours? Qui l'a présenté? Et je lis, selon les récits de là, il lui aurait été opposé que son retour constituerait une menace pour la stabilité de la matinale de France Inter, qui est animée par Nicolas Demorand et Léa Salamé, hein, qui est vraiment un des programmes phares de Radio France. On lui a dit que 500 000 auditeurs pourraient quitter France Inter pour le retrouver sur Info. Pourquoi ? Parce que Patrick Cohen a présenté dans le passé la matinale de France Inter. Donc il a ses fans, il a ses auditeurs sur Radio France. Et en fait, ils avaient très très peur, c'est la version officielle, qu'en fait, il y ait de très nombreux auditeurs qui quittent France Inter pour France Info. Et dans une opération, finalement, qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt, puisqu'il ne s'agit pas de nouveaux auditeurs conquis, mais c'est juste d'auditeurs qui quittent une matinale pour une autre. Donc, la direction change d'avis, ça arrive. Et lui, il est très déçu, puisqu'il ne cachait pas son souhait de refaire de la radio au quotidien et en première ligne, si possible. Je vous le disais, la matinale, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux en radio. Mais, parce qu'il y a toujours des petites histoires dans les histoires. Donc ça, c'est l'argument officiel. Mais dans les coulisses, il se susurre aussi que Laurence Bloch, dont je viens de parler, ne lui aurait jamais pardonné son départ en 2017, donc de France Inter, pour la matinale concurrente d'Europe 1, où il était parti. Voilà. Et donc, voilà, c'est une histoire un petit peu de personnes. Voilà où on en est. Ce qu'on ne sait pas pour l'instant, en fait, c'est qui va remplacer Marc Fauvel à la matinale de France Info, la radio, puisque moi je présente la télé. Je peux juste vous dire que je ne suis pas candidat, que je n'ai pas été candidat, parce qu'à un moment, se lever à 2h du matin, ça va aller, quoi. Voilà, l'histoire. Bon. Oui, les feux de l'amour, un petit peu, exactement. Il y a Mix PRTZ qui dit c'est un petit peu les feux de l'amour. Un petit peu, ouais. Merci Ray La Taupe pour le 26e mois d'abonnement. Alors, dans le chat, il y a des fans de Patrick Cohen, d'autres qui l'aiment moins. On est sur quelque chose de très subjectif. Un présentateur, une présentatrice, un animateur, une animatrice, on aime ou on n'aime pas son travail, et ça, il n'y a aucun souci. Moi, les gens qui aiment mon travail, super. Les gens qui n'aiment pas mon travail, aucun problème avec ça. C'est très, très, très subjectif. Hein. Ça tient à plein de choses. La tête, le timbre, la façon de parler, la façon d'écrire et tout. Donc, en vrai, aucun souci avec ça. Et je vois que Patrick Cohen ne laisse pas indifférent. En tout cas, bon, c'est quand même un grand professionnel, quoi. Comme Marc Fauvel, d'ailleurs, qui a tenu les rênes de la matinale de France Info toutes ces années, pendant 6 ans. Mais voilà, il y a un moment, on sait que ces horaires un peu particuliers de lever à 2h du mat, là, usent les hommes et les femmes qui travaillent à ces horaires. Et à un moment, ils finissent toujours par dire, bon, alors ça dépend, hein, ça peut être au bout de 2 ans, ça dépend, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Marc, il a tenu super longtemps. Mais à un moment, on dit, bon, ben, c'est plus fort que toi, hein, c'est le corps qui fatigue. Voilà. Merci BZH Manu 35, ça sent la Bretagne à plein nez, donc ça sent très très bon. Merci pour le Prime, c'est adorable. Et merci Décadragme pour le gentil 10e mois d'abonnement et les encouragements. Certains plaident pour le retour de Fabienne Synthèse qui était génial en matinale. Tu as raison, Strise, Fabienne Synthèse, c'était excellent. Ok, un petit sommaire. Je vous montre ce qu'il y a dans... J'adore. On me donne les infos locales. Il y a Ronan qui me dit qu'il fait 16 degrés à Brest et que c'est la canicule. J'adore. La canicule en Bretagne à 16. Coquin, va. Moqueur. Voilà. Allez, petit sommaire. Je vais vous abandonner vers, je sais pas moi, on va dire 13h max. Parce qu'après, il faut que, un, je me douche. Je me suis lavé les dents, hein. Mais j'ai économisé sur le temps de douche pour pouvoir streamer plus tôt ce matin. Deux, que je prépare bien l'exposition Étienne de ce soir. Voilà, j'ai des petits trucs à faire. Et trois, que je fasse un petit tweet, comment dire, triomphal, puisque Question pour un champion vient de signer 4 jours consécutifs en étant premier programme, toute chaîne confondue, donc faisons de France 3 la première chaîne de France sur son créneau horaire pendant 4 jours consécutifs. Ça fait un 4 à la suite de notre petit jargon, donc je vais essayer de préparer un petit mot rigolo pour genre bien me la raconter. Voilà. Arrêtez pour l'odeur, c'est pas vrai, il n'y a pas d'odeur sur Twitch. On ne pouvait pas savoir que, si je ne vous l'avais pas dit, vous ne pouvez pas savoir que je ne me suis pas douché. Wanyer, merci beaucoup pour le 6e mois. Ouais, je suis super content. En vrai, voilà. On est très très content de la belle aventure de questions pour un champion. C'est pas, ça, je peux vous dire que j'ai. C'est pas demain que je vais arrêter ce truc que je kiffe. Regardez ce qu'il y a dans l'IB ce matin, ça c'est super intéressant. Petit sommaire en 10 minutes et après on prend le temps de lire tout ça. Plusieurs papiers dans la presse ce matin, le Figaro en parle aussi, mais c'est Libération qui y consacre le plus gros dossier. Plastique, la guerre a commencé. Vous avez des négociations internationales qui débutent là, ce week-end à Paris, pour lutter contre la pollution plastique. Cauchemar environnemental et sanitaire. Mais, il y a un problème de frein, de lobby. Les géants de la pétrochimie ne comptent pas se laisser faire. C'est passionnant, c'est hyper bien raconté par Libération. Plastique des négos en toc pour l'interrogation, on lira ça. Non seulement c'est une actu importante, mais c'est vraiment bien expliqué. Libération, je me régale ce matin. Je le dis souvent, les journaux c'est comme nous, ils sont parfois en forme, parfois moins en forme, parfois ils sont plus ou moins intéressants. C'est un grand Libé aujourd'hui. Si vous voulez acheter un journal aujourd'hui, voilà, j'aime tous les journaux, mais je vous conseille Libé parce que Libé est vraiment intéressant. Il y a un deuxième tour de la présidentielle en Turquie dimanche, on est quel jour, samedi, donc demain. A priori, Erdogan est favori, je dis bien a priori, puisque la dernière fois c'était le candidat de l'opposition qui a priori était favori du premier tour, et en fait, pas du tout. Erdogan maintenant est favori pour être réélu. Eh bien, le dossier de Libé est extrêmement clair, je dis merci Libé. On regardera ça si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe en Turquie et pourquoi Erdogan va a priori, je remets un a priori, une prudence, être réélu président turc. Eh bien, Libé est super clair là-dessus. Merci Le Figaro pour ce sujet aussi que j'évoque de temps en temps avec vous parce qu'il y a un débat en France là-dessus important sur la fin de vie, le débat sur la fin de vie en France. Alors, le débat sur la fin de vie en France, c'est deux choses. C'est le débat sur l'aide active à mourir, l'euthanasie. Il y a une volonté, qui, alors, a priori des Français, quand on leur demande est-ce qu'il faut légaliser l'aide active à mourir, l'euthanasie en France. Vous avez, disent les sondages, une énorme majorité des Français qui disent oui, hein, face à la douleur pour des maladies incurables. Il faut laisser partir les gens qui le souhaitent, même d'une façon très encadrée, mais il faut le faire. Il y a un rapport qui a été remis par une convention citoyenne là-dessus qui arrive aux mêmes conclusions et peut-être que dans quelques mois ou quelques années, eh bien, effectivement ça va être légal en France. Et puis il y a ceux qui disent non, les médecins par exemple, une majorité de médecins sont opposés à ça, les religions souvent aussi, voilà, sont opposées en raison de respect absolu de la vie. Vous avez des médecins qui disent moi je suis là pour soigner, pour guérir, pas pour donner la mort, quoi. Et qui disent c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut au contraire enfin mettre en place des soins palliatifs, donc les soins qui apaisent la douleur, qui font disparaître la douleur qui s'installe parfois en fin de vie face à une maladie incurable. Et donc c'est pas l'aide active à mourir qu'il faut mettre en place, c'est l'aide active à vivre, hein, je résume en caricature un petit peu, en mettant enfin en place en France les moyens pour des soins palliatifs, quoi. Il est là le débat, et le Figaro, ben, justement, fait le point sur les soins palliatifs. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant, ce sujet. On l'a déjà abordé, mais l'éclairage du Figaro est intéressant. Le Parisien, si vous êtes une fan de Céline Dion, je vous le signale, la une du Parisien est consacrée, et le principal dossier, à l'état de santé de Céline Dion, qui vient d'annuler toute une série de concerts. L'immense chanteuse, hein, c'est quand même une voix de dingue en fait, hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est juste, elle est juste étonnante, hein, cette artiste. Et bon, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Je veux dire, on sait qu'elle a des soucis de santé et donc il y a beaucoup d'interrogations, il n'y a pas beaucoup de réponses. Mais si ça vous intéresse, ben, je vous signale effectivement qu'il y a un dossier dans Le Parisien ce matin. Ça, par contre, ça m'a un peu plus titillé les méninges. C'est le deuxième ou le troisième papier que je lis là-dessus en l'espace de quelques mois. Est-ce que demain, on va avoir dans nos cerveaux des implants cérébraux pour genre nous booster quoi, l'humanité augmentée quoi, avec des capacités de mémoire, de réflexion, je réflexe, je sais pas, de fou quoi. Voilà. Alors ça peut aussi servir pour refaire marcher des gens tétraplégiques, redonner la vue à des aveugles, voilà. Elon Musk, la société de Musk, parmi d'autres, sont en train de bosser là-dessus. Il y a une nouveauté, c'est qu'aux États-Unis, les autorités sanitaires américaines viennent de donner le feu vert à la start-up de Musk sur cette question d'implant cérébral. Feu vert pour tester ces implants cérébraux sur des humains. What? Voilà. Donc on avance sur ce truc. Ouais, il y a Aynoun qui parle du transhumanisme. Voilà, c'est exactement ce débat. Donc il y a du nouveau, je vous lirai ce papier. Lionel P2, merci pour le 13e mois d'abonnement. Merci à toi. Roland Garros, alors ça y est, c'est parti. Et j'ai trouvé un petit article sympa dans le Parisien. Et vous avez beaucoup d'articles dans la presse ce matin qui célèbrent la dernière victoire homme à Roland Garros. Attends, il y a. Ah, c'est mignon, il y a Nightbot qui annonce l'exposition Étienne de ce soir. Ah, c'est cool. Beaucoup de papiers sur le dernier Roland Garros gagné par un Français qui est donc par Yannick Noah. C'était, je crois, il y a 40 ans. Les fans de sport, de tennis, corrigez-moi si je dis pas. Si je dis une bêtise, 40 ans, donc c'était quand même, c'était il y a super longtemps. A priori, c'est pas pour cette année qu'un Français va gagner Roland-Garros. 83, donc ça fait 40 ans. Ouais, c'est ça, ça fait 40 ans. En revanche, un coup de projecteur intéressant sur, donc j'ai dit un joueur français. Hein, donc quelqu'un m'a dit, Emery Pierce. J'ai dit un joueur français, exprès. Hein, pour pas, voilà, donc j'ai bien dit joueur. Voilà. Au fond de la classe, faut écouter là, près du radiateur, faut pas s'endormir. En revanche, un coup de projecteur intéressant sur deux jeunes joueurs. Vous avez bien entendu, français. Ils ont 18 et 19 ans, je crois. C'est Arthur Fils et Lucas Van Hache, voilà, qui sont très, 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 très prometteurs. Après, il faut transformer. Mais il y a un petit portrait sympa pour ceux qui ne connaissent pas ces espoirs qui rentrent dans le top 100. Dans le top 100, il y en a un qui entre dans le top 100, lundi, et pour l'autre, c'est déjà fait. Donc voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, j'ai dit, comme le dit Stéphane Gocha, j'ai dit un joueur français et pas une joueuse américaine. Merci d'écouter, c'est super. Mais comme le dit Situs, après il faut transformer parce qu'on a déjà eu des jeunes prometteurs qui n'ont rien donné par la suite. Là, vous allez me remercier. Parce qu'on fera un horoscope tout à l'heure, c'est l'horoscope du Parisien. J'ai un bug avec l'appli du Parisien en ce moment. Quand j'achète le Parisien en ligne, quand je le télécharge, bon, je le lis, je fais mes petites captures d'écran, tout va bien. Si jamais je quitte l'appli et que je reviens, il faut que je réachète le journal. Le même, parce qu'il y a un petit bug. Merci le Parisien, ouais, c'est sympa. Du coup, ce matin, j'ai quitté l'appli sans faire exprès et je me suis rendu compte que je n'avais pas pris de capture d'écran de l'horoscope. Et je me suis dit, je vais me faire engueuler. Merci Joe. On a un magnifique raid de Joe Coco, voilà. L'homme qui passe sa vie ici, qui s'est décarcassé pour faire les petites améliorations sur le stream d'hier soir de l'hebdo Étienne, qui s'est décarcassé pour le stream de ce soir. L'exposition Étienne, hein, 4 visites sur place pour que ce soit nickel ce soir à partir de 20h, qui se décarcasse au quotidien d'ailleurs, qui a streamé ce matin et qui nous rejoint avec un joli raid. Merci Joe. J'étais en train de dire qu'il y a un bug sur l'appli du Parisien qui fait que quand je quitte l'appli du Parisien, si je veux revenir sur le journal du jour, il faut que je le repaye. Tout ça pour vous dire que j'ai retéléchargé, que j'ai repayé le Parisien pour que vous ayez votre horoscope. Voilà. Ah. C'est pour vous, c'est parce que je vous aime. Voilà. Comment ça va, Joe? Vous avez parlé de quoi ce matin chez l'ami Joe? Vous avez fait quoi? Vous avez parlé de quoi? D'amour, de vie, de technique, de quoi? De chien. Merci Panda Nocturne pour le 3e mois d'abonnement. Merci Vosro Dienier pour le 21e mois d'abonnement. Et force à toi. Il y a Vosro Dienier qui est à l'hôpital actuellement. Et si on pouvait lui envoyer des petits messages de soutien, voilà, pour lui envoyer de la force, ce serait super gentil. Vosro Dienier qui vient de nous écrire. On a parlé du setup, des super interventions des invités avec Pépin aussi. Vous avez parlé de l'hebdo d'hier. Ok, toutes les petites améliorations. On m'a trouvé un surnom. Mais oui, je vois ça. C'est le D, c'est ça? Le D, c'est ça? Ton surnom, c'est le D? Le D pour le Joe? Ouais, c'est pas mal. C'est ça? C'est pas mal, le D, en vrai. Ouais. Peut-être que moi aussi je pourrais genre me rebaptiser le S pour transformer mon surnom officieux Mister Chibre, qui est dur à porter dans les milieux les plus institutionnels, et le transformer en S. C'est pas mal ça. Merci pour la force que vous envoyez à Vosro Denier et qui vous remercie. Merci, vous êtes chou, nous dis-tu. Et Clio, merci pour le troisième mois d'abonnement. Si monstrueux, j'adore. Merci pour ton prime. On y va ?
Allez, go !
Allez, maintenant qu'on a fait le petit sommaire, vous avez l'essentiel de l'actualité. Maintenant, on va prendre le temps de lire tout ça. Et puis d'échanger aussi là-dessus, d'abord en parlant de la pollution au plastique dans le monde. Ça ne va pas du tout, nous dit Libération. Il faut faire des choses en urgence, sauf qu'il y a des lobbies très puissants, les entreprises qui vont tout faire, justement, pour que ça n'arrive pas. C'est le dossier qui est mis en une par Libération ce matin, qui est vachement bien. Merci Ecléo, merci beaucoup pour ton soutien. Pour ce troisième mois d'abonnement, lisez avec moi « Plastique, la guerre, carrément, a commencé ». Des négociations internationales donc débutent ce week-end à Paris pour lutter contre la pollution plastique. Cauchemar environnemental et sanitaire, tout le monde est d'accord là-dessus, hein. Mais, le problème c'est le mais, merci Babadit pour le 19e mois, ça fait quand même. Mais les géants de la pétrochimie ne comptent pas se laisser faire. Angoisse, carrément, c'est l'édito écrit par Alexandra Schwarzbrod. Et après on lira l'article qui est vachement bien fait. Achetez Libé ce matin, en vrai, vous allez vous régaler, vous n'allez pas le regretter, hein. Ça vaut, si vous le téléchargez, ça vaut 1€ et des brouettes. Et vraiment, ça vaut le coup, quoi. Angoisse. Let's go, je zoome un petit peu. Une fois cette lecture terminée, nous demande Libération, prenez quelques secondes pour vous observer, vous et votre environnement immédiat. Vos lunettes. Vos stylos. Vos chaussures. Je suis pas assez souple, je vous les montre pas. Jusqu'à certains de vos vêtements, la coque de votre téléphone portable, le tapis de votre souris. Bon, là, j'ai pas de tapis. La bouteille d'eau, hein. Regardez bien, le plastique est partout. Nous y sommes accros, la planète en crève, littéralement intoxiquée par tous ces déchets que nous rejetons chaque année en continu dans la nature, qui représentent chaque année le poids de 35 000 tours Eiffel. Leur quantité a doublé dans le monde depuis 20 ans, pourrait tripler d'ici à 2060. Donc vous voyez, la pollution plastique aujourd'hui, en fait, elle est sur le point d'exploser. Tiens, il y a X Crow qui écrit « Je travaille dans une imprimerie d'emballage alimentaire. Nos clients ont doublé leurs commandes sur les deux dernières années. » Et pour l'heure, seul 9% de tout ça est recyclé. Autant dire trois fois rien, le plastique était gage de modernité dans les années 70. Je m'en souviens, moi, vieux machin que je suis, à l'image du tabouret Tam Tam. Ouais, j'en ai eu, moi, dont la plupart des logements comptaient au moins un exemplaire. On l'aimait alors de couleur orange, peut-être parce que c'était le symbole de vie et d'énergie, mais aujourd'hui, on le fuit, ou plutôt, on essaie de le fuir, ce plastique, et si on devait lui donner une couleur, ce serait plutôt le noir, couleur de l'angoisse, d'où le titre de cet édito. Comme le rappelle notre enquête, le plastique, ça n'est pas fantastique, petit clin d'œil à une vieille chanson, très persistant dans l'environnement, se dégrade en micro et nanoparticules qui polluent. Qui pollue quoi ? Qui pollue l'air, qui pollue les sols, qui pollue l'eau, tous les écosystèmes, au point que nous sommes assurés d'en ingérer au moins 5 grammes par semaine. L'équivalent d'une carte de crédit. On ingère chaque semaine, c'est pas possible, putain. L'équivalent d'une carte de crédit en plastique. Chaque semaine. Chaque semaine ! La dinguerie. Super, je pense que pour notre corps, c'est super ça. C'est super. Il y a des mangeurs de cartes graphiques et puis il y a les mangeurs de plastique, quoi. Et en fait, c'est nous. Alors, on continue comme si de rien n'était, demande Libération. C'est tout l'enjeu des discussions qui s'engagent ces jours-ci à Paris en vue d'aboutir à un texte international sur la pollution plastique. Vous me dites, ouais, yes, let's go. Attention, c'est plus compliqué. Pour espérer de se débarrasser de ce fléau, il faudrait un accord contraignant qui pousse les industriels concernés, ceux des énergies fossiles et de la pétrochimie, à réduire drastiquement la production, mais ceux-ci ne l'entendent absolument pas de cette oreille, déterminés à préserver la manne. Bah, ils ne veulent pas perdre cette activité qui leur apporte des sous, quoi, le truc classique. Les délégués des États ne doivent pas avoir la main qui tremble, il en va de notre avenir à tous. Pour les aider, nous dit Libération, nous consommateurs, Disposons d'un levier évident, la limitation drastique du plastique dans notre environnement immédiat. Donc il y a les actions, nous dit Libération, au niveau des États contre le marché, contre les entreprises, pour essayer ou de pousser le recyclage, on va se pencher là-dessus dans un instant, ou encore mieux de baisser la production. Et puis il y a ce qu'on peut faire chacun de nous au niveau citoyen. Si tous les citoyens du monde entier se donnent la main pour réduire leur utilisation, leur consommation de plastique, eh bien évidemment c'est aussi une donnée du problème. On va lire l'article, mais déjà l'édito est vachement intéressant. Je vous lis un petit peu. Petros Swag écrit: attention le chat, il faut retirer l'emballage avant de manger le sneakers. Ouais, enfin en même temps ça donne un petit goût. Hein, l'emballage du sneakers, il est comme il a été en contact avec le truc pendant un moment, en fait il a un petit truc un peu hein. Ouais. Non, mais oui, ouais, il paraît qu'il faut l'enlever quand même. Abracor n'a rien compris, vient de manger sa CB, c'est pas très agréable et on peut plus ne peut plus retirer de l'argent. Abracor, à un moment, c'est, je ne peux rien faire pour toi. Non. Ça vous fait rire, c'est tant mieux. Il y a PMR, vous êtes indécrottable, j'adore cet humour pourri, qui nous dit: je mange toujours l'emballage parce que après j'ai l'impression de gaspiller. J'adore. Sinon il y a Stone2 qui propose cette solution, je ne sais pas si c'est une bonne solution, qui dit: mangez du plastique, sinon ça partira dans l'environnement et après vous allez en manger. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Tiens, tu vois, hein, sur les intérêts économiques, il y a Get 10. C'est intéressant aussi d'avoir vos éclairages et vos infos là-dessus, qui dit: je travaille dans une entreprise de chimie, dans la création de plastique. On n'a jamais recruté autant qu'aujourd'hui. Voilà. Dernière blague sur le sujet de Pucci 93. Si on avale l'équivalent d'une CB par semaine, est-ce que ça veut dire qu'on est riche? Pourquoi l'État laisse faire les lobbies demande Fatih Paris 75. Tu sais quoi? C'est la bonne question et on va l'évoquer tout de suite dans l'article de Libération. Enfin, c'est l'État, c'est les États, puisqu'évidemment, il faut que les décisions soient prises au niveau international. Tu penses bien que c'est pas qu'au niveau français qu'on peut agir sur un tel sujet. Plastique, des négos en toc, pour l'interrogation, puisqu'il y a des négos internationales qui commencent ce week-end et Libération a bien peur en fait que ça ne débouche sur rien, ou en tout cas pas grand-chose. Lisons cet article. Donc des négociations visant à élaborer un texte international sur la pollution plastique, dont la deuxième session doit avoir lieu à Paris à partir de lundi, après une réunion informelle de ministres de l'Environnement, donc internationaux, organisée par l'exécutif français ce samedi. Donc c'est vraiment dans l'actu. Le processus qui n'aboutira pas avant la signature d'un traité avant fin 2024 a été lancé en mars 2022 déjà, donc il y a un peu plus d'un an, avec l'adoption d'une résolution de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Donc c'est plutôt positif. Le problème, nous dit Libé, c'est que c'est une résolution un peu ambivalente. Elle se contente en effet, cette résolution au niveau de l'ONU, de viser à promouvoir la production et la consommation durable de plastique, ainsi que la réduction de la pollution plastique dans l'environnement marin, et non la baisse de la production de plastique, en fait. Et pour Libération, en fait, c'est ça le problème. Libé qui écrit: or, pour ne pas tous finir étouffés, intoxiqués par l'avalanche de déchets qui s'abat sur la Terre, limiter la production à la source est indispensable, car éliminer ces polymères une fois qu'ils sont dans la nature est tout à fait illusoire. Très persistants dans l'environnement, ils se dégradent en micro, en nanoparticules qui polluent l'air, le sol et l'eau jusqu'au sommet de l'Everest. Comme ils intègrent la chaîne alimentaire, la fameuse CB qu'on se bouffe par semaine, là, nous en ingérons en moyenne 5 grammes par semaine. Je n'en reviens pas. Ils imprègnent nos corps jusqu'au sang, au placenta et au lait maternel. Voilà. Donc c'est un peu flippant. Et je vois que certains flippent dans le chat. Mais on va tous en sortir, vous allez voir, je suis un indécrottable optimiste. Donc voilà pourquoi des associations, et je dis bravo à elles, telles que Surf Rider Foundation Europe ou Zero Waste France, plaident pour que ce futur traité international sur le plastique fixe un objectif global de réduction de la production de plastique de 75% en 2050, et pour que les États adoptent un moratoire sur les nouvelles installations pétrochimiques liées au plastique ou leurs expansions, quoi. Hélas, les producteurs de polychlorure de vinyle, de polyéthylène ou de prolipopropylène, j'espère que vous apprécierez l'articulation, ne l'entendent pas, eux, de cette oreille. Eux comptent sur une poursuite de la tendance actuelle, une production mondiale exponentielle qui a déjà doublé entre 2000 et 2019 et qui pourrait encore tripler d'ici 2060. Peu importe si cela noie la planète sous les déchets, bénef, bénef, thune, thune, dividende, dividende, hein, vous avez compris le principe, sachant que 81% des produits fabriqués subissent ce sort en moins d'un an. Voilà. En gros, là, on vient de nous expliquer que 81% des produits en plastique fabriqués chaque année, au bout d'un an, deviennent des déchets. Wouhou ! J'ai plein d'infos très optimistes ce matin, mais on va s'en sortir, vous allez voir. Comme le dénonce l'ONG Greenpeace, l'essentiel pour les grands groupes intégrés verticalement du secteur des combustibles fossiles comme Total, tiens, comme Exxon, tiens, comme Shell, comme Aramco, qu'est-ce qu'ils essayent de faire ces groupes actuellement ? C'est d'investir massivement dans la production pétrochimique et plastique afin de trouver de nouveaux débouchés. Bah ouais, on essaie de se passer de plus en plus de pétrole au niveau international et du coup, les producteurs de pétrole, de quoi ils flippent ? Eh bien, de plus vendre leur pétrole et donc ils se disent, bah, plutôt que le mettre, je sais pas, dans les moteurs, notamment des bagnoles, eh ben, on va faire du plastique avec. Ouais, ok, vous voyez le problème ? Alors que les pays réduisent leur dépendance aux hydrocarbures, programmant l'interdiction des véhicules à essence et à diesel, eh bien, ces multinationales font face à une incertitude existentielle que le plastique vient combler. Le plastique, c'est fantastique, en tout cas pour ces grands groupes. Je vais à la fin de l'article, qui est beaucoup plus complet que ce que je vous lis. Achetez Libé ce matin. Franchement, vous allez vous régaler. Fin de l'article. D'ailleurs, je vais saluer l'auteur parce que c'est du super boulot. Coralie Chaube a écrit cet article. Coralie, c'est un super taf. Je vais à la fin de l'article. Merci beaucoup, Nel Ferro, pour ce cinquième mois d'abonnement. Est-ce que les États privilégieront l'intérêt général et la santé ou les intérêts privés de quelques entreprises ? La ligne des 53 pays dont fait partie la France, eh, quand même, réunie dans une coalition de la haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique. Donc il y a un camp de 53 pays, la France est dedans, justement pour des décisions dures, quoi, qui prônent l'adoption d'un traité contraignant. Le problème, c'est que cette ligne ne fait pas l'unanimité, notamment auprès des États-Unis, notamment auprès des pays d'Asie, qui assurent plus de la moitié de la production mondiale. Alors que 175 nations aux ambitions divergentes vont se retrouver au siège de l'UNESCO jusqu'au 2 juin, il est à craindre que les producteurs d'énergie fossile aient déjà gagné. Bon, moi j'essaie de rester optimiste, mais là... Là, c'est un peu chaud, quoi. Bon, désolé, je ne viens pas toujours qu'avec des bonnes nouvelles. En même temps, on va pas mettre la poussière sous le tapis, ne pas en parler et faire l'autruche. Plus on en parle, plus on sensibilise, plus on peut essayer de faire bouger les choses un jour. Là, Libé nous dit c'est un peu chaud, hein, sur le plastique. Je vous lis un petit peu et on parle de la Turquie, la présidentielle en Turquie. Voilà, il y a Asbel qui est en pleine forme. Ne vous inquiétez pas pour les générations futures, il n'y en aura pas. Mme Gohanna qui constate que l'optimisme de Samuel est mis à mal. Voilà, j'en ai pris un petit coup derrière la caboche. Ouais. It's me, bro, et envie de baisser les bras aussi. Et en écrivant, on a pourtant l'impression qu'on est sur une mouvance de retrait du plastique, hein, les sacs, les emballages alimentaires, la mode du vrac. Étonnant et désolant que finalement tout ça ne semble être que des paillettes. Ouais, c'est un petit peu ce qui ressort du dossier de Libération et que ce soit l'inverse qui se passe. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu triste. Quelqu'un me signale dans le chat qu'actuellement il y a un gros code promo pour Libération avec Backseat, l'émission de Jean Massier. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est cool. Bravo Jean, bravo Backseat, bravo Libé. D'ailleurs, Jean qui a fait effectivement une très belle OP récemment avec la Surf Rider Foundation, il y avait aussi Avamine, il y avait Little Big Whale notamment. Ouais, bien vu, j'ai vu ça, ils sont allés ramasser des déchets, je crois, hein, sur des plages. Bravo les gars. Ray Latope le prend avec humour en disant « On n'a pas fini de chier des Lego. Et magnifique passe décisive de Flashibou qui renvoie à un sujet qu'on va évoquer tout à l'heure. Bientôt, on aura dans notre cerveau du plastique avec Elon. Bon, désolé de ce sujet un petit peu anxiogène. Là, c'est vrai que là, c'est un peu chaud, mais Libération essaie de nous alerter. Je crois que c'est réussi. Alors maintenant, on va en Turquie. C'est très intéressant parce qu'il y a 15 jours a eu lieu le premier tour de la présidentielle en Turquie. C'est dans Libération ce matin. Excellent article de Ala Kodmani. Et alors quelques jours avant le premier tour, ben, en gros, les grands médias internationaux s'appuyant sur les sondages en Turquie disaient « Bon, bah, c'est incroyable. Pour la première fois depuis longtemps, eh bien, Erdogan va sans doute perdre la présidentielle. » Et donc c'est l'opposition qui va gagner en mettant fin à un très long pouvoir de Recep Tayyip Erdogan à la tête de la Turquie. Le premier tour arrive, patatras, non seulement le candidat de l'opposition n'est pas en tête, mais c'est Erdogan qui passe en tête et avec une avance qui laisse penser qu'il va gagner le deuxième tour. Le deuxième tour, c'est demain. Donc voilà, vous êtes nombreux à me dire que parfois les sondages, il faut les prendre avec prudence. Bon, en l'occurrence, ces sondages parfois se trompent. Là, ils se sont trompés, effectivement. Et il y a de fortes chances que Erdogan soit réélu demain président de la Turquie. On va rester prudent puisque on va rappeler que les médias et puis les sondages se sont trompés la dernière fois. Donc ça peut se reproduire encore là. Donc une élection, ce sont les électeurs qui décident. Lisons ce papier qui nous explique pourquoi Erdogan finalement pourrait être réélu. C'est assez intéressant. Élection en Turquie, Erdogan l'incassable mouvant. Malgré des conditions économiques difficiles, des milliers de prisonniers politiques et un discours islamo-nationaliste brutal, le président sortant a séduit une majorité de Turcs en surfant sur les crises et en affirmant son rejet de l'Occident. Et il devrait, Libération utilise le conditionnel, être réélu dimanche. Hop, zoomons et lisons, puisqu'on aime bien lire les journaux ici. Merci Yukini, j'avais pas vu, merci beaucoup pour le Prime. Merci de ton soutien. Avec 49,5% des suffrages au premier tour, le président sortant n'est pas passé loin de la victoire. Il a failli être élu au premier tour. Le résultat a constitué une surprise pour tous ceux qui, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Turquie, je vous le disais, prévoyaient et espéraient une défaite du leader qui règne sur le pays. Quelqu'un me demandait, mais depuis combien de temps il est au pouvoir ? Depuis 20 ans, 20 ans que Erdogan est à la tête du pouvoir en Turquie. Quasiment assuré d'être réélu ce dimanche, moi je pense qu'il faut rester prudent, au deuxième tour de la présidentielle pour un nouveau mandat de 5 ans, donc ça ferait 25. Erdogan sait pouvoir encore compter sur le lien profond qui l'unit à la plus grande partie des électeurs turcs. Et l'article de Libération vise à nous faire comprendre pourquoi eh bien, il est encore soutenu par une part importante du peuple et des électeurs turcs. La parole à François Livet, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le monde des nouveaux autoritaires » et qui écrit « Il cultive un lien direct avec le peuple, auquel il parle, de meeting en meeting, le langage de celui qui présente les classes populaires contre les plutocraties, le pouvoir de l'argent. Son talent de tribun, donc c'est un homme qui sait parler aux foules, nous dit ce spécialiste, magnifie un langage manichéen, qui lui assure un ascendant sans équivalent sur certaines couches de la population, dans les campagnes, dans les petites villes. » C'est François Livet qui écrit. Vous êtes plusieurs à accuser ou soupçonner des élections truquées. C'est un vrai sujet. Sachez qu'effectivement, ce soupçon est toujours présent dans certains scrutins. C'était le cas en Turquie. C'est un scrutin qui a été extrêmement observé, y compris par l'opposition démocratique en Turquie, et pour le coup le trucage de ces élections, y compris par les observateurs indépendants et du camp d'en face, n'est pas avéré. Il semblerait bien que si Erdogan est arrivé en tête au premier tour, c'est pas tellement parce qu'il a truqué les élections, même si ça nous ferait plaisir de le penser, qu'il a triché, mais bien en fait tout simplement que il est encore soutenu par une part importante de la population. Voilà. Et d'ailleurs l'opposition n'a pas mis ça en avant pour expliquer sa défaite du premier tour. Voilà, la solution est plutôt dans ce que vient de dire The Titi dans le dans le chat, c'est son populisme qui le rend populaire. Son ascendant, sa popularité parmi les catégories sociales qui l'ont toujours soutenu, suffirait-il en cette dernière campagne au président dont pourtant la politique a tant malmené la vie de ses fidèles, parce que justement il a quand même quelques casseroles, quelques dossiers négatifs au cul, pardon l'expression, et c'est ce qui a fait penser que justement là il allait perdre cette élection. Nombre de ses fidèles étaient remontés notamment contre ses choix économiques contestables qui ont porté l'inflation à plus de 44% en Turquie. Officiellement sans doute beaucoup plus en vrai, les conditions de vie se sont dégradées nettement ces dernières années avec la hausse des prix des produits alimentaires de base, donc il y avait ces problèmes économiques. Avant même d'être touché dans la vie quotidienne, les partisans d'Erdogan n'ont pas non plus été rebutés par son autoritarisme croissant, les mesures antidémocratiques qu'il multipliait, sa mainmise sur les médias, les purges qu'il a menées dans l'administration ou l'arrestation de dizaines de milliers de ses opposants dans tous les milieux. Et puis il y a eu le séisme du 6 février. Même après le séisme du 6 février, la rage provoquée par le manquement des services de l'État, hein, le scandale des pots de vin versés par les entrepreneurs immobiliers aux administrations pour ne pas construire selon les normes obligatoires pourtant antisismiques, donc tout ça est avéré, et bien pourtant il s'en est tiré. La rage provoquée par les manquements des services de l'État parmi les dizaines de milliers de familles de victimes et les millions de sans-abri n'a pas duré ou n'a pas pesé de façon significative. Au contraire, Erdogan a saisi, c'est là où il est très très fort, l'opportunité du drame de ce séisme pour se rendre sur le terrain auprès des populations sinistrées. Il a exprimé sa compassion et il s'est engagé à mobiliser tous les moyens pour secourir, reloger et reconstruire au plus vite. Ce séisme et son dramatique bilan humain auraient dû être quelque chose qui pesait contre lui et il a réussi à retourner le truc pour en faire au final un avantage. Je vais à la fin de l'article avec un autre élément d'explication pour nous faire comprendre pourquoi Erdogan reste populaire auprès d'une partie des Turcs. C'est plus que tout la fierté nationale des Turcs qu'il a caressée tout au long de cette campagne. En vantant sa diplomatie indépendante qui a placé le pays au centre du jeu mondial, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine, Ankara a maintenu de bonnes relations avec les deux belligérants, négocié un accord sur le passage des céréales à travers la mer Noire, vital pour nombre de pays arabes et africains. Erdogan a innové dans la rhétorique anti-occidental, apprécié par ses partisans. L'Occident est également troublé par les progrès, ça c'est son discours à lui, l'Occident est troublé par les progrès de la Turquie dans le domaine de la défense. Est-ce qu'ils apprécient, les pays occidentaux, le fait que la Turquie se renforce dans le domaine de la défense? Bien sûr qu'ils ne nous apprécient pas, a dit Erdogan. Ils ne nous apprécient plus parce que nous ne leur achetons plus d'armes de munitions. Le développement des industries de défense turques, notamment le succès des drones qui sont illustrés en Ukraine et avant cela en Arménie ou en Libye, a été un des arguments réitérés par Erdogan pour glorifier son bilan, hein, la souveraineté, l'indépendance de la Turquie face au reste du monde. Assumant le rejet réciproque des Occidentaux à son égard et plus globalement envers la Turquie, Recep Tayyip Erdogan en a fait un argument de campagne. « Ma nation leur a donné sa réponse le 14 mai. J'espère que le 28 mai, c'est demain, elle le fera à nouveau », a-t-il déclaré au sujet des gros titres des médias européens ou américains qui prévoyaient sa défaite dès le premier tour de la présidentielle. Cet article est très complet. Merci Youkini encore pour le Prime. Alors, qu'est-ce que vous racontez là-dessus ? Ouais, ouais. MMGCTF qui suit l'actu, je dis bravo, nous parle aussi de cette tentative ratée de coup d'État où il avait mis un sacré tour de vie chez ses opposants. Ouais. Et Erdogan est très remonté d'ailleurs contre notamment les pays occidentaux qui ne sont pas venus le soutenir lors de cette tentative de coup d'État. Et ça n'a pas arrangé les relations en fait entre Erdogan et les autres pays européens et avec les États-Unis. « Napojox dit « Libé est un peu déprimant aujourd'hui avec le dossier qui suit sur Total ». Je ne vous l'ai pas mis de côté ce matin, mais je vous le signale, c'est un bon article aussi dans Libération ce matin sur ce qui s'est passé autour de l'Assemblée Générale de Total et ses militants écologistes qui sont venus perturber l'AG de Total pour dénoncer le « greenwashing » du groupe pétrolier français. L'article est super sympa. Je ne vous l'ai pas mis de côté parce que je ne peux pas tout vous mettre de côté, mais c'est dans Libération, effectivement. Un excellent Libé aujourd'hui, donc pas super optimiste, avec pas que des bonnes nouvelles, mais en vrai, super Libé. On passe au Figaro. On va parler de... Ah, je suis vraiment sur des bons trucs bien positifs ce matin. On va parler de la fin de vie, on va parler d'euthanasie, on va parler d'aide active à mourir, on va parler de soins palliatifs. Je sais, si vous êtes parti sur ce week-end avec vraiment la bonne humeur, la pêche, là, je vais vraiment bien vous miner. Hein. Voilà, c'est pas l'objectif de ce stream, mais non, en vrai, non, c'est important d'en parler. On va tous être confrontés à ça, hein, nous-mêmes directement, ou des proches, peut-être que vous l'avez déjà été. C'est super important, en fait. La vie, c'est aussi la mort. Et la question de la fin de vie, de comment on doit finir sa vie, notamment quand on est touché par une maladie incurable qui fait souffrir, eh bien c'est vraiment un sujet super important. Je vous en ai beaucoup parlé à l'occasion du rapport qui a été remis par la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui a conclu au fait que voilà, il fallait sans doute aller en France vers la légalisation de l'aide active à mourir, de l'euthanasie, hein, ou de permettre aux gens de mettre fin à leur jour en prenant les médicaments ad hoc, ou en permettant à des acteurs du secteur médical de le faire de façon extrêmement encadrée. Donc ce qui semble répondre à une demande de l'opinion publique française, si on en croit les enquêtes d'opinion. Et puis il y a des gens qui disent non. Il y a des gens qui disent non, c'est pas ça. Il faut pas mettre en place une aide active à mourir ou à l'euthanasie en France. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut booster les soins palliatifs. Qui dit ça ? Les médecins notamment, les médecins sont majoritairement opposés à la mise en place de l'euthanasie, de l'aide active à mourir en France, en disant nous on n'est pas là pour donner la mort, on est là pour donner la vie, pour soigner les gens. Donc il faut mettre en place de vrais soins palliatifs. C'est quoi les soins palliatifs ? C'est les soins qui enlèvent la douleur quand on est en fin de vie et qu'on souffre en raison de la maladie. Donc il y a les médecins qui disent ça, il y a les religions aussi, hein, l'Église catholique notamment en France qui est opposée à ça. Et puis il y a le Figaro. Aussi parce qu'un journal rapporte des informations, mais aussi a le droit de prendre position du moment qu'effectivement il signifie clairement que c'est une prise de position personnelle. Et le Figaro ne cache pas plutôt être non pas pour la mise en place de l'euthanasie et de l'aide active à mourir en France, mais plutôt pour un vrai système de soins palliatifs. Alors certains disent il faut les deux. C'est intéressant parce que l'article en parle. Vous êtes un petit peu dans le « en même temps ». Je fais une blague. Lisons cet article du Figaro. Oui, bien sûr. Catherine de Twitch dit quelque chose qui est évident, mais que je le dis quand même. Attention, la fin de vie dans la souffrance ne concerne pas tout le monde. La majorité d'entre nous ont une mort soudaine en quelques secondes, accident, AVC, arrêt cardiaque, mort dans son sommeil, bien sûr. Ça ne concerne heureusement pas une majorité d'entre nous, mais c'est pas parce que ça ne concerne pas une majorité d'entre nous qu'il ne faut pas penser à ceux qui souffrent dans les derniers moments de leur vie. Soins palliatifs, pourquoi la France reste à la traîne, se demande le Figaro ce matin. S'ils font l'unanimité chez les soignants et les politiques, ces centres qui veulent soulager la souffrance sont encore absents dans une grande partie de notre pays et manquent cruellement de moyens, et ça en fait ça va pas du tout. Hop, voici l'article. Et après, on lira un petit bout de l'édito aussi. Aujourd'hui, en France, vous le savez peut-être, moins d'un tiers des malades qui auraient besoin d'une prise en charge palliative pour soulager leur souffrance y accèdent. Moins d'un tiers. C'est-à-dire que vous avez plus de deux tiers des Français, Françaises, éligibles à ces soins palliatifs pour ne pas souffrir, moins souffrir en fin de vie, qui n'y ont pas accès parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que le centre n'existe pas près de chez eux. Pourtant, c'est une obligation inscrite dans la loi depuis 1999 et malgré 5 plans nationaux sur le sujet en 2 décennies, le droit d'accès à ces soins reste une promesse inachevée. Ainsi, 21 départements en France sont totalement dépourvus de cette unité, juste pas du tout, voilà, qui prennent en charge les cas les plus complexes. Face à la volonté présidentielle de légiférer, hein, sur la fin de vie dont je vous parlais, la SFAP, qui est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, s'inquiète de voir le sujet du soulagement de la souffrance, pourtant prioritaire, selon la Convention citoyenne que j'évoquais tout à l'heure, relégué au second plan, perdu dans un futur projet de loi légalisant l'aide active à mourir. Pourquoi la SFAP là, parle de la Convention citoyenne ? Parce que la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui a réfléchi sur le sujet là, il y a quelques semaines, qui a rendu son rapport, elle dit deux choses. Elle dit, oui, nous pensons, au-delà de nos différences exprimées dans notre convention, qu'il faut aller en France vers une légalisation de l'euthanasie slash de l'aide active à mourir. Mais avant cela, il faut aussi enfin mettre en place une vraie politique de soins palliatifs. Cette convention citoyenne, elle dit les deux. Donc c'est le « en même temps » dont vous parliez tout à l'heure. Et le Figaro craint en fait que ce qui soit mis en place, eh bien, ce ne soit qu'une partie de cette double recommandation et qu'on aille, oui, vers une légalisation de l'aide active à mourir en France, mais qu'on ne mette pas, hélas, les moyens réellement pour que les Français qui en ont besoin eh bien, aient accès à ces soins palliatifs. Raph26, merci beaucoup pour cet abonnement. Et c'est là où je vous lis l'éditorial, l'endroit où un journaliste ou un journal donne son avis. Hein. Ici, signé Étienne de Montetti, hein, c'est écrit, c'est éditorial, donc c'est un article qui n'est pas comme les autres, où clairement le journal ou le journaliste prend position. Éditorial d'Étienne de Montetti, aide active à mourir. C'est parti. En février 2022, donc c'est pas très vieux, un grand plan national a été lancé dans notre pays, affichant l'ambition de garantir à chacun l'accès aux soins palliatifs. Donc c'est dans la loi, normalement on devrait l'avoir. Quoi. Quelqu'un me demande, est-ce que c'est une question de coût, Kludge, je ne sais pas si c'est une question de coût, mais c'est une question de moyens en tout cas, c'est sûr que les moyens aujourd'hui ne sont pas suffisants. Quelle est ma position, me demande Proche, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je vous donnerai mon humble avis à la fin de cet article tout à l'heure, même si je ne suis pas sûr que ma réflexion soit suffisamment approfondi sur le sujet, mais je commence à avoir un petit avis à force de lire des papiers là-dessus. Pierrel, merci beaucoup pour le troisième mois de soutien. En avril dernier, une convention citoyenne s'est réunie, donc confirmant cette volonté de développement des soins palliatifs en France, mais prenant aussi l'instauration d'une aide active à mourir, le rapport qu'elle a rendu, l'intervention du président de la République qui s'en suivit, ont semblé vouloir installer dans l'opinion publique l'idée d'un « en même temps » caractéristique de notre temps, hein, à la fois mettre en place une aide active à mourir dans notre pays, interdite aujourd'hui, hein, c'est illégal, et booster les soins palliatifs. Sur un sujet aussi capital, se demande le Figaro, est-ce que c'est vraiment la bonne méthode, cette en même temps ? Parce que c'est une philosophie de l'existence qui s'esquisse. Et là, on rejoint un petit peu les arguments des anti-euthanasie, aide active à mourir, c'est de nombreux médecins et aussi les croyants. Les églises. Quel avenir voulons-nous ? Se demande donc le Figaro. Dans un cas, donc là, pour le Figaro, ce sont les partisans de l'euthanasie, un système de pensée où l'être humain est vu en termes d'individualisme, où des arguments d'utilité et de rentabilité peuvent s'inviter insidieusement dans le sujet. Hein ? Vous savez, c'est toujours le risque de dérive évoqué, craint par certains sur le sujet de l'euthanasie, c'est qu'à un moment, dans une société, si l'euthanasie est une possibilité, l'aide active à mourir, c'est que la société, de façon plus ou moins avouée, pousse les plus fragiles, les plus vieux, les moins productifs, vers une fin de vie. Ouais, une espèce de société eugéniste, en quelque sorte, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une crainte de dérive. Évidemment, dans son rapport, la Convention citoyenne sur le climat a bien dit que si c'était mis en place en France, il faudrait un cadre extrêmement strict pour être sûr que c'est un choix éclairé de la personne, etc. Quoi. Donc il y a cette crainte-là. Et puis de l'autre, et là, c'est les soins palliatifs, cette autre vision de la philosophie pour le Figaro, eh bien, c'est un accompagnement efficace pour éviter le double piège de l'acharnement thérapeutique et de l'euthanasie, puisque pour le Figaro c'est un double piège. Un protocole durable permettant donc d'apaiser la douleur, d'être entouré des siens avant d'entrer en douceur dans le grand mystère de l'au-delà. aux soins prodigués à ses anciens, on reconnaît l'humanité d'une société. Voilà. Difficile, quelqu'un me disait, mais quel est ton avis là-dessus? Je vais vous lire et puis je vais vous dire où j'en suis de ma réflexion. Il y a Alfred qui dit, par exemple, j'ai vu mon oncle décédé suite à Alzheimer à 70 ans, il l'avait contracté 7 ans avant. Il était en super forme physique et ne faisait pas son âge, mais si on me diagnostiquait la même maladie, je choisirais l'euthanasie lorsque les symptômes apparaîtront. C'est très fort ce que tu dis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est intéressant ce que dit Bapidou. Du point de vue belge, puisque je pense que tu nous parles depuis la Belgique, où l'aide active à mourir est possible et légale, on a vraiment l'impression que c'est un débat d'un autre temps. Le respect à la vie, c'est également la dignité dans la mort, et je suis moi-même catholique. Astremoon est clair aussi ce débat. C'est intéressant tout ce que vous dites. Je savais que ça vous parlerait. Parce que on est tous concernés de près ou de loin par ce sujet. Astremoon écrit, reprenez-moi si je me trompe, et malheureusement, les soins palliatifs ne suffisent pas toujours. Ma grand-mère était en soins palliatifs, mais elle souffrait quand même. Le corps s'habitue, je suppose, hein, aux drogues. Elle a demandé à ce qu'on la fasse partir. J'aurais aimé qu'elle ait pu choisir quand partir, et avec la famille auprès d'elle. Rimo s'écrit, donc en gros, si je résume, on veut une société dans laquelle on refuse aux gens de mourir. Bon, ça c'est le Figaro qui dit, hein, qui dit ça, hein, c'est pas la société. Et on veut qu'ils vivent le plus longtemps, même dans la douleur, mais on retire tous leurs moyens financiers aux EHPAD, des hôpitaux, c'est ça. Voilà ce que tu, voilà ton sentiment là-dessus. La matraque. Mon père est passé par ses soins palliatifs. Aller le voir pendant 2 semaines agoniser ne sert à rien. Et encore, il a eu de la chance que 2 semaines. En Suisse, on a ça, nous dit Loulou Filou. Ça permet à des personnes en souffrance, ayant bien réfléchi, ayant leur capacité de discernement, de choisir une mort qui mette fin à ces souffrances. Je vois des messages très forts. Hein. Philox, je vois des personnes âgées à l'hôpital tous les jours. Et c'est totalement horrible de voir des vieux sans famille qui se font bourrer de médicaments et qui deviennent fous. Mon avis là-dessus, il est provisoire. Moi, je pense qu'on peut être en chemin sur des réflexions. On n'est pas obligé d'avoir un avis catégorique sur tout le temps, parce que quand je fais un sondage sur telle ou telle question, je laisse toujours une case « je ne sais pas, je suis en chemin sur la réflexion ». Et parfois, sur certains sujets, le « je ne sais pas » peut monter à 30%, quoi. Moi, je sais pas là, sur ce sujet. J'en ai lu des papiers là-dessus. Hein. Évidemment, je me pose la question, comme tout un chacun, sur la fin de vie de mes proches, sur ma fin de vie. Si demain, c'est ça la question, si demain je suis confronté à une maladie incurable qu'on ne peut pas soigner, qu'on ne sait pas soigner, et qui me fait souffrir, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je préférerais ? Des soins palliatifs pour enlever la douleur et pour aller au bout de ma vie, naturellement, ou une fin, une aide active à mourir pour me faire partir, bon, du coup sans douleur et dans la plus grande dignité, en ayant choisi le moment où je vais partir, le moment où et entouré de qui. Et est-ce que je serai en mesure à ce moment-là d'avoir le discernement suffisant pour prendre cette décision? Et si ça n'est pas le cas, si j'ai un peu perdu la tête pour dire les choses, qui va prendre cette décision? Voilà le sujet, quoi. Quel sujet? Je sais pas. Récemment, je suis tombé sur un... Parfois, vous faites attraper le col par des gens dont la spécialité est de vivre de la polémique. Bon, moi, ça m'intéresse pas. Je trouve que la vie est trop courte. Justement, tiens, c'est intéressant, on parle de vie. La vie est trop courte pour passer son temps à chercher la polémique pour la polémique, la polémique pour le clic, la polémique pour le retweet, la polémique pour je ne sais pas quoi d'ailleurs. Puisque je ne crois pas que ce soit ça qui fasse avancer le débat, la violence dans les mots, la violence dans la polémique. Et quelqu'un, en regardant un de mes streams, disait, parce que je venais de dire sur un sujet, je ne sais pas, je le dis souvent d'ailleurs. Et la personne me disait, comment ça tu sais pas, c'est ton boulot de savoir. Avec beaucoup de... Les gens comme ça qui sont toujours un peu à cran. Mais moi, c'est pas mon boulot de savoir en fait. Moi je doute, je m'interroge sur plein de sujets, et pardon, mais je pense que c'est un signe de sagesse et d'intelligence d'être en chemin, de s'interroger, de se questionner, de pas forcément avoir d'avis définitif. Je vous le dis souvent, moi je me méfie beaucoup des gens qui ont les avis définitifs. Les gens qui disent, mais moi je sais, moi je pense que, et puis c'est le moi je pense que, c'est souvent moi je pense que, et il faut penser comme moi, pardon, hein, mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Oh, la vache, qu'est-ce que c'est flippant. Moi je dis qu'il faut se méfier des gens qui sont persuadés, qui sont convaincus comme ça. C'est au nom des convictions très très fortes que les plus grands crimes de l'histoire de l'humanité ont été commis. Donc les gens qui me disent c'est ton boulot de savoir, ben je dis surtout pas mon chouchou. Et toi-même d'ailleurs tu devrais t'interroger un peu plus sur tes convictions et être un peu plus prudente dans la façon de les affirmer parce que tu ne détiens pas la vérité. Qui es-tu ? Je vais remercier Citron Violet pour le gentil raid dans un instant, mais je suis en pleine tirade philosophie là. Qui es-tu, toi, du haut de tes 20 ans, 30 ans, même 50 ans ou 130 ans ? Qui es-tu pour savoir ? Là, je suis parti en prof de philo, là. Qui es-tu pour savoir, toi ? Au nom de quoi, t'as ton expérience de vie, tes quelques lectures, tes quelques rencontres, tes quelques échanges te permettent de savoir que tu as la vérité ? Au nom de quoi ? Pourquoi ? Voilà. Au nom de quoi intimes-tu aux autres de prendre position alors que peut-être ils estiment qu'ils ne sont pas encore suffisamment armés, qu'ils n'ont pas forcément assez réfléchi, assez échangé sur le sujet. Au nom de quoi on devrait toujours être sûr de tout. Voilà. Moi, ça me fait flipper ce genre de truc, quoi. Donc, pardon pour la parenthèse. Tout ça pour vous dire que sur le sujet, ben, j'ai pas d'avis en fait. Sur le sujet, je suis en chemin. C'est super compliqué quand même. Je vous lis un petit peu là-dessus. En tout cas, ma seule conviction sur le sujet, mon seul sentiment d'ailleurs, je n'aime pas le mot conviction, il pue mon conviction. Mon seul sentiment sur le sujet, que de toute façon, effectivement, quoi qu'on décide sur la fin de vie en France, il faut absolument mettre les moyens sur les soins palliatifs. D'ailleurs, tenez, j'ai un éclairage dans l'article qui suit là, sur le manque de moyens, sur la mise en place des soins palliatifs en France. Là, c'est très très clair. 5 plans de soins palliatifs ont été mis en place depuis 1999 en France. Je remercie Citron Violet. Excellente chaîne qui stream depuis le Japon, notamment IRL, qui vient de nous rejoindre avec plein de gens. Pardon, on était sur un sujet super, super chaud sur la fin de vie en France, sur le débat sur les soins palliatifs. Merci Citron Violet, merci à tous des viewers qui sont arrivés avec toi. Merci Valentina TV pour le 5e mois d'abonnement. Merci Pierrel pour le 3e mois d'abonnement. Pardon, j'avais pas vu les subs. Merci Rafraf26 pour le soutien. Les modos, n'hésitez pas à mettre la chaîne de Citron Violet dans le chat qui a une excellente chaîne que je vous. Recommande. Merci d'avance au modo. Donc, 5 plans de soins palliatifs mis en place en France depuis 1999. Donc, normalement, ça devrait être en place, le truc. Mais Jean-Marie Gomas, qui est cofondateur de la SFAP, donc SFAP, qui, je le rappelle, est la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs, donc il veut promouvoir les soins palliatifs, eh bien, ce monsieur dit ils n'ont pas eu de financement à la hauteur des enjeux. Ben, comme ça, c'est clair. Voilà, la chaîne Citron Violet, elle est dans le chat. N'hésitez pas à aller la suivre. Le dernier plan par exemple était doté de 171 millions d'euros sur 5 ans, La SFAP avait évalué qu'il faudrait en fait 4 fois ce montant au minimum. Et ce monsieur dit, bah, c'est un montant ridicule, ça paraît beaucoup, 171 millions d'euros sur 5 ans, mais c'est ridicule comparé par exemple aux 7,5 milliards d'euros déboursés par l'État pour financer la remise sur les carburants. La formation des médecins constitue une autre lacune flagrante, donc il y a le manque de moyens et il y a un problème de formation des médecins sur ce sujet des soins palliatifs. Quelques dizaines d'heures de formation sur la fin de vie dans des cursus de plusieurs années, donc on parle de la formation des médecins dans notre pays, c'est scandaleux, dit ce responsable. À l'université, la lutte contre la douleur doit encore gagner ses lettres de noblesse. Le prochain plan décennal promis par le gouvernement pourrait aboutir à la structuration d'une filière spécifique. On a un problème, alors je ne sais pas dans les autres pays, mais on a un problème en France sur la prise en charge de la douleur, hein. Par les médecins, on a un peu progressé là-dessus, mais vous avez encore beaucoup de médecins qui estiment que la douleur en tant que telle n'est pas un problème, et eux savent ce qui est important pour le patient, et le patient finalement n'a pas beaucoup à se plaindre. Il y a un problème de prise en charge de la douleur dans notre pays, il y a un problème de formation des médecins, dit ce responsable de la SFAP, sur le fait notamment que la question des soins palliatifs n'est abordée que dit l'article, que pendant quelques dizaines d'heures de formation sur des études qui durent plusieurs années. Voilà le problème aujourd'hui en France. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que quelle que soit la décision de notre pays sur la fin de vie, l'euthanasie qui deviendrait légale en France, l'aide active à mourir, il faut booster les soins palliatifs, quoi. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Allez, je profite du fait qu'on est à peu près à la moitié de ce stream pour vous rappeler que ce soir... Attendez, je vais chercher le petit visuel. Où est-ce que je l'ai mis récemment, ce petit visuel ? Hop, c'est ici. Ce soir, à 20h, je vous attends en direct... du musée Guimet avec Foki qui est à gauche, streameuse, artiste, dessinatrice, passionnée d'art, et Marie Palot que vous connaissez, qui est une amie aussi, en direct du musée Guimet, dont le nom officiel est Musée National des Arts Asiatiques Guimet, avec plein de choses, les collections permanentes. Là, ce que vous voyez derrière sur le visuel, c'est la bibliothèque du musée Guimet, qui est juste un endroit mais incroyable, t'as envie de vivre ici, c'est une pièce qui est magique, vous verrez. Et puis aussi, et peut-être surtout, il y a une exposition temporaire qui vient de débuter au musée Guimet sur l'histoire des médecines d'Asie, mais qui est passionnante par ce qu'on y apprend et qui est belle, qui a une scénographie qui est super réussie. Voilà, ce soir, 20h-23h, en direct du musée Guimet, avec des experts, hein, des spécialistes du musée. Il y en aura vraiment beaucoup à nous accompagner. Voilà, on aura du micro à chef de partout et deux amis. Voilà, deux streameuses, deux créatrices de contenu, Marie Palot et Foki. Voilà. Rendez-vous à 20h ce soir. On est en mode double stream. On va dire le Parisien maintenant. Il y a Eurimos, le musée Guimet, mon musée préféré à Paname. Et sois avec nous ce soir. Je ne sais pas si tu apprendras des choses, mais en tout cas, on serait content de t'avoir, quoi. C'est grand en plus le musée Guimet. Hein. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà. Foki, c'est son petit nom. Et Fakir est le nom de son compte Twitter, Fakheaar. Avec un A en moins pour sa chaîne Twitch. En fait, c'est elle. Voilà. On peut aller voir sa chaîne Twitch, je vous montre. Voilà, elle nous accompagne avec Marie Palot ce soir. Merci Charizardeur, je vais te remercier dans un instant. Voilà, on est sur sa chaîne Twitch ici, ouais. On est beaucoup sur des streams de dessins, d'illustrations. C'est très très bien ce qu'elle fait. Moi je l'ai découvert par un raid un jour. Ah putain, je n'ai même pas mis la scène, pardon. Voilà. Poup poup, écrit-elle dans sa bio sur Twitch, prof de dessin. Je partage sur Twitch mon processus créatif. Mes conseils et astuces pour s'améliorer en dessin, et ça a l'air de vous plaire. Passionné d'histoire de l'art, voilà. Bon, je me suis dit que ça pouvait être vraiment une invitée idéale pour ce soir. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas Marie Palot, je pense qu'on peut aller voir peut-être ça. Palot, peut-être. Sa bio. Allô ? Ah, ici. Voilà. Voilà Marie. Oh, elle est en live? Marie est en live? Non. Non, elle est pas en live. Alors. Hop. Elle fait pas mal de rencontres, hein, pas mal d'échanges. Ah, sa bio se résume ainsi, je mors. Super. Merci beaucoup. Colix55 nous parle de Foki, de Fakir que je vous présentais à l'instant. Très talentueuse d'ailleurs. Voilà. Merci Salonchita pour le gentil message et pour le soutien. Jean Marcy, dernier sub, merci à vous. C'est grâce à vous que je peux passer du temps ici. Et non pas du sang. Merci beaucoup Silent Cheetah pour le troisième mois d'abonnement et le message. Shari Zarder, merci encore pour le Prime. Et maintenant, je vous lis le Parisien. Qu'est-ce qu'on a dans l'actu du Parisien? Alors, comment dire? Moi, je suis Céline Dion, j'écoute pas au quotidien. J'écoute pas au quotidien, même si les quelques fois où j'ai écouté, notamment récemment, un duo de fou. Attendez, je vais vous. J'ai été bluffé en fait par les capacités vocales de Céline. De la science-fiction, le truc est en train de se faire quoi. Les autorités sanitaires américaines viennent de donner leur feu vert aux premiers essais sur l'homme de son projet d'implant cérébral. Exactement. La start-up donc a annoncé avoir reçu l'accord des autorités sanitaires américaines, écrit le Parisien ce matin page 10, pour tester ses implants cérébraux connectés sur des humains. Hein, c'est le truc là. Que vous voyez ici, tchac, dans la tête. Comment ça fonctionne? C'est pour qui? Lisons, c'est vachement intéressant. Vous voudriez de cette puce, vous? Vous voudriez de ce truc dans votre tête, là? Hein? Let's go. Après des mois de travail, Neuralink, qui est donc la boîte qui appartient à Elon Musk, qui travaille là-dessus, Neuralink a annoncé donc jeudi avoir reçu le feu vert des autorités sanitaires américaines pour un premier essai clinique sur l'homme. Effectivement, il y a beaucoup d'espoir pour les personnes en situation de handicap. En quoi consiste cet accord ? C'est un premier pas important qui permettra un jour à notre technologie d'aider de nombreuses personnes, s'est réjouie l'entreprise, qui n'a pas précisé les objectifs de l'étude qui a été autorisée. La Food and Drug Administration, donc l'autorité sanitaire américaine, n'a pas non plus fait de commentaire là-dessus, donc on ne sait pas exactement quel accord a été donné, mais il y a eu un accord. L'autorité sanitaire, qui l'an dernier avait refusé une première demande de l'entreprise, d'Elon Musk donc, et avait signalé à l'entreprise plusieurs préoccupations, inquiétudes devant être résolues pour qu'un essai sur l'homme soit effectivement accepté. Quel type d'accord a obtenu Neuralink, s'interroge une Française, une neurobiologiste qui s'appelle Catherine Vidal. Pour l'instant, on ne le sait pas, mais on va bien finir par le savoir. À quoi ça va servir ? Certains parlent notamment des personnes en situation de handicap. En décembre, Neuralink avait déjà lancé un registre de patients afin de vérifier l'éligibilité du candidat à un potentiel essai clinique, parce qu'avant d'y aller, ben, il faudra faire des essais. Étaient recherchés des adultes souffrant de tétraplégie, de paraplégie, de perte de vision, de perte auditive et ou d'incapacité à parler. L'objectif, vous l'avez compris, est donc notamment de permettre à des personnes paralysées ou souffrant de maladies neurologiques d'interagir avec leur environnement en utilisant des appareils numériques. L'autre priorité consiste à restaurer la vision chez des personnes aveugles. Les ambitions de Neuralink dépassent ce domaine-là, médical pour les personnes en situation de handicap. À terme, le but de l'implant est, attention, de doter le cerveau de n'importe quel humain d'une puissance informatique. Pour Elon Musk, qui craint que les systèmes d'intelligence artificielle ne prennent un jour le contrôle, ces dispositifs cérébraux doivent justement permettre à l'homme de ne pas se laisser distancer par les ordinateurs en améliorant ses capacités cognitives. Voilà. 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 L'homme, la femme, augmenté. Voilà. Comment ça marche ? Avec ses 23 mm de diamètre et 8 mm d'épaisseur, l'implant Neuralink est relativement gros. Il est constitué d'une batterie qui peut se recharger sans fil. Ça évite d'avoir un fil qui sort de la tête. À l'aide d'un autre appareil relié au secteur et qui est placé à proximité. Il est composé de 1024 électrodes réparties sur 64 fils ultra flexibles, ultra fins. Mini-fils qui sont censés enregistrer en l'activité neuronale pour la transmettre à un appareil numérique. Cyberpunk, exactement. On est en plein cyberpunk, Amigalda, exactement. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les paramètres du compte Étienne sont obsolètes. Voilà. Mon PC vient de me dire que les paramètres du compte Étienne sont obsolètes. Je suis obsolète. C'est-à-dire qu'on vient, de me faire la pub de l'implant cérébral en direct, quoi. C'est fou ! Donc, les mini-fils, bon, bah, dans la tête, là. Neuralink vise également à révolutionner la chirurgie parce qu'il faut mettre l'implant dans la tête, là. Il faut mettre l'implant dans la tête. L'entreprise a donc conçu un robot aux allures de machine à coudre. Je crois qu'on l'a, la machine. Elle est là. Un robot aux allures de machine à coudre. Pourquoi faire ? Capable d'insérer l'implant dans le crâne du patient, toute seule. Hein, avec son aiguille plus fine qu'un cheveu humain, voilà le truc quoi. Le robot doit ensuite coudre les fils microscopiques de la puce dans le tissu cérébral tout en évitant les vaisseaux sanguins. D'après Elon Musk, l'opération réalisée sans anesthésie générale ne prendrait pas plus d'une heure. Putain la vache. Quels résultats ont déjà été obtenus ? On est où de ce truc ? Après avoir inséré le dispositif avec succès sur des porcs, la start-up avait annoncé en 2021 avoir implanté sa puce chez un singe et montré vidéo à l'appui que l'animal pouvait désormais jouer donc le singe, au jeu d'arcade Pong, ting, tang, ting, tang, vous savez, par la pensée. Un singe a pu jouer à Pong avec l'implant par la pensée. C'est pas un projet, quoi. C'est fait, quoi. D'autres singes ont pu taper des mots sur un ordinateur en suivant des yeux le mouvement du curseur sur l'écran, quoi. Très bonne question, est-ce qu'ils sont encore vivants les singes, demande Léna. Très bonne question. Justement, l'entreprise fait l'objet d'une enquête pour éventuelle violation du bien-être animal. L'opération chirurgicale prévue demain sur des humains pose aussi question. La spécialiste française qu'on évoquait tout à l'heure, la neurobiologiste, dit même des interventions très précises peuvent provoquer des hémorragies dans les micro-vaisseaux, hein, dans le cerveau, et des courants épileptiques qui vont détruire des neurones, donc attention. Neuralink suscite une forte attention parce que c'est évidemment c'est une entreprise qui appartient à Elon Musk, mais sachez que d'autres entreprises, nous explique le Parisien, travaillent également sur le contrôle des ordinateurs par la pensée. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous voulez des implants dans les têtes? Bon, si c'est pour aider les personnes en situation de handicap, c'est cool, mais voilà. Alors, J. Badman s'interroge sur le coût de tout ça, hein, si on veut se mettre des implants cérébraux dans la tête, et nous rassure, il y aura des versions gratuites avec la pub. Vous pourrez avoir des implants dans la tête, pas cher, mais vous aurez des pages de pub qui viendront pop dans votre cerveau de temps en temps, quoi. Non, c'est une blague, mais elle est drôle. Je valide. Il y a eu Gravis qui dit on parle des Américains, mais n'oublions pas que la neuroscience européenne a réussi à refaire marcher une personne paraplégique il y a quelques jours. Ah, j'ai vu les articles, mais comme j'étais à question pour un champion, j'ai pas pu vous les lire. Crise climatique explorer est un peu sceptique. Je me permets de nuancer l'enthousiasme de l'article. Le professeur du Collège de France, Stanislas Dehaene, en a parlé dans son cours de cette année et semblait très très sceptique sur la viabilité du truc. À noter. Hâte de jouer à Valorant par la pensée, nous dit Hatsol. Mis à part le côté handicap, c'est horrible, me dit KKS Bastos. Ça me fait penser à Cyberpunk 2077, dit Trine Danou. Tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a une puce qui permet de gagner la question pour un champion? Clamakin, pas encore. Putain, c'est chaud. Il y a Nixodis qui dit, si ça bug, est-ce qu'on redémarre, hein? Est-ce qu'on peut être rebooté, quoi? Eh ouais. Oh Nat, ça va bien se passer. Nat, elle en peut plus. Ça m'inspire un début de dystopie. Je suis dégoûté d'être né à cette époque. Ça va bien se passer, Nat. Ça va bien se passer. On va y arriver. On va survivre. Lianoui n'en veut pas. Nope, rien qui soit connecté au piratable dans mon corps, hormis si c'est un traitement curatif pour une maladie mortelle. Genre pacemaker, tout ça. Chevalier Creux estime au contraire que c'est la suite logique de l'évolution de l'homme. Est-ce qu'on pourra recharger son implant sur la superchargeur de voiture Tesla, demande Camembert, pour gagner un petit peu de temps? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question pertinente. Futuriste effrayant, dit Ajar. Pourquoi on doit toujours rendre valides les invalides, dit Nélinat. Ça n'est pas évoqué par le papier, mais tu as raison. Ça n'est pas une obligation, ça n'est pas toujours souhaité. Qu'est-ce que la normalité, hein, c'est la question que tu poses, bien sûr. Et c'est une question importante. Hein, s'il faudra retirer sa puce avant de passer un examen, demande Elio. Donc on va sur des questions de fou. Eric, lui aussi, nous appelle à la prudence. Lui aussi ou elle aussi, en écrivant encore du grand Musk, discours plein de SF, largement déconnecté de la réalité scientifique et technologique. Attention aux infos relayées et de la manière dont c'est fait. Il y a Lansky qui se projette dans le futur et imagine un appel au SAV. Bonjour, il y a mon implant qui ne fonctionne plus. Et la réponse de la personne du centre d'appel, bonjour, est-ce que vous avez essayé de débrancher, rebrancher l'implant? D'accord. Norwich qui écrit, je valide, je suis malvoyant, je suis pas contre Samuel, je pourrais relire des journaux au lieu d'écouter des journalistes obsolètes. je valide. Hein, tu vois, je trouve ça classe, ça me fait ultra peur. Intéressant. Doragon a lâché 150 000 points de chaîne pour chanter du Céline Dion. Pardon, je suis en pause de chant, pardon, mais je le note. Et à la rentrée, je l'espère, quand je me remettrai à vous casser les oreilles en chantant, petites surprises d'ailleurs à ce niveau-là qui arrivent à la rentrée. Là, j'ai plein de surprises pour vous à la rentrée, notamment une peut-être dans le domaine musical. Je te promets que tu en auras pour tes points de chaîne. Je te le promets. Dragon 5, c'est noté de chez Noté. Céline Dion. Ok, allez écouter ce duo de Céline Dion et Chris Isaac là sur Wicked Games. C'est juste une dinguerie. Voilà. Justement. Un petit mot de tennis pour terminer et un petit horoscope et après je vous abandonne parce que après je vais faire deux choses, trois choses, quatre choses, je vais faire plein de choses. Qu'est-ce que je fais après? Un, je vais aller me doucher. Putain, crado. Hein. Je me suis lavé les dents. Mais comme je croisais personne ce matin et que ma famille est partie en week-end, je me suis pas douché. Un, je vais me doucher. Deux, je vais préparer bien carré l'exposition Étienne de ce soir en direct du musée du quai Branly. 3, je pense que je vais essayer de courir. Tiens, c'est le stream de ce soir, rendez-vous à 20h, on va se régaler. 3, je vais essayer de courir, de faire un petit footing là. Voilà, je suis en train d'essayer de me remettre au sport. Et 4, je vais manger. Voilà. Donc je me dépêche. Oh, j'ai dit Quai Branly ? Non, ça c'était il y a 3 semaines. Musée Guimet, pardon. J'ai bugué parce qu'il y a 3 semaines on était au musée du Quai Branly. C'est au musée Guimet, comme c'est écrit ici, pardon. Voilà. C'est parce que je n'ai bu que 2 cafés ce matin. Voilà. Donc, je vais faire tout ça. Mais d'abord, je vais vous parler de tennis. Parce que c'est parti pour Roland-Garros. Voilà. Alors, Roland-Garros, bon, il y a plein de papiers ce matin sur... oh là là, la dernière fois qu'un Français, qu'un garçon a gagné Roland-Garros, c'était il y a 40 ans. Il y a plein de papiers sur Yannick Noah. Putain, mais c'était il y a 1000 ans, quoi. Non, 40 ans. Mais bon, on a l'impression que c'était il y a 1000 ans. A priori, ce n'est pas pour cette année qu'un Français ou une Française va gagner Roland-Garros. On se lamente un petit peu, hein. c'est notre tournoi, c'est chez nous, de terre battue, c'est pas pour tout de suite. Alors, le Parisien est un peu en mode espoir en nous parlant de deux grands espoirs du tennis masculin qui sont Van Hache, qui est à gauche, et Fils, pas mon fils, Fils. Hein. Arthur Fils, 18 ans, là il est à droite, et Lucas Van Hache, 19 ans, qui est à gauche. Là ils sont affrontés je crois l'an dernier en finale du tournoi junior de Roland-Garros, hein, je crois que c'est Arthur Fils qui a gagné, et donc leur portrait est brossé par le Parisien. Ça nous permet de nous mettre ces deux noms dans la tête, parce qu'effectivement s'ils continuent sur cette lancée, eh bien je pense qu'ils vont nous impressionner dans les prochaines années. L'un va intégrer le top 100, ce sera lundi, pour l'autre c'est déjà fait. Arthur Fils, 18 ans, et Lucas Van Hache, 19 ans, qui disputent à partir de dimanche par ailleurs les promesses du tennis français. Van Hache et Fils, c'est le titre de l'article d'Éric Brunat dans Le Parisien de ce jour. Les garçons patientent depuis 40 ans et le sacre inoubliable de Yannick Noah à Roland-Garros. Chez les filles, ça fait déjà 10 ans que Marion Bartoli a soulevé le prestigieux trophée de Wimbledon. On guette désespérément leur successeur. Aujourd'hui, seule Caroline Garcia, que j'adore, numéro 5 mondial, semble avoir les moyens de ses ambitions. Ah, Caroline Garcia, putain, si elle pouvait gagner Roland-Garros, mais ce serait une dinguerie. Je pense qu'avec ces deux jeunes-là, il y a du potentiel. Pas en 2023, pas tout de suite, nous dit cette personne, mais on peut espérer quelque chose de grand pour le futur. Qui parle? C'est le responsable de la mission Ambition 2024 de la Fédération française de tennis. C'est Ivan Ljubicic, hein, le Croate, qui est l'ancien numéro 3 mondial quand même, qui nous parle de ces deux jeunes dans Le Parisien, qui suit d'un œil très attentif leur progression. Révélé au grand public lors du Roland-Garros 2021 et la victoire de Van Hache. Ah, je me suis trompé. Je pensais que c'était Fils à droite qui avait gagné sur Van Hache en finale du Roland-Garros junior l'an dernier. C'est l'inverse, c'est Van Hache qui avait gagné. Pardon. Donc je corrige. Révélé au grand public lors de Roland-Garros 2021. En plus, c'était pas l'an dernier, c'était en 2021. Ok, double erreur, double faute. Ok, bien joué Samuel. Oh là 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 là. Ne faites pas attention à ce que je dis. Parfois, je suis approximatif. Là, je le suis. Donc maintenant, soyons carrés. Révélé au grand public lors du Roland-Garros 2021, donc il y a 2 ans, et de la victoire de Van Hache sur Fils en finale du tournoi junior, les deux jeunes tricolores sont en train de confirmer les espoirs placés en eux. Le premier, donc, c'est Van Hache, a intégré le top 100. C'est quand même le Benjamin du top 100. Le Benjamin, le plus jeune joueur du top 100 mondial. Au tennis, il est français. Il est français, voilà. Et c'est Van Hache. Le second va limiter dès lundi, puisque Fils va intégrer le top 100 mondial lundi. Et tous les deux seront présents donc dans le tableau de Roland-Garros, qui débute ce dimanche. Van Hache est 79e au classement mondial actuellement. Et donc c'est pour ça qu'il intègre le tableau de Roland-Garros. Et Fils a eu de bons résultats ces derniers mois. Du coup, il a été invité par la Fédération française de tennis, ce qu'on appelle une wild card, hein, c'est ça. En cas de victoire, il pourrait même s'affronter au deuxième tour. Voilà. Ah putain, je prononce mal. Il y a des spécialistes qui me disent, on dit pas Van Hache, on dit Van Haché. Ah, on prononce E. On dit Van Haché. Ok. Merci les amis. Et ben voilà, c'est corrigé. Van Haché. Sur le court, Fils est un volcan dont il faut maîtriser les éruptions. C'est quelqu'un de puissant. Et quand on est puissant, on a toujours l'impression qu'on peut faire un point chaque fois qu'on touche la balle, dit son coach. Alors que le tennis de haut niveau, bah, c'est pas ça. D'abord, il faut faire très peu de fautes. Ensuite, il faut intégrer le plus vite possible sa capacité à s'adapter à toutes les situations. Donc, on nous présente Fils comme un puncher. Le credo de Fils est de mettre le feu, celui de Van Haché, puisqu'on dit Haché, hein. Tout le monde le sait, hein, évidemment, je pense que vous le savez. Haché comme le steak, bien sûr, me disait quelqu'un dans le chat. Le credo de Van Haché est de ne pas s'enflammer. Pour trouver une filiation aux mousquetaires récemment retraités, l'un serait le successeur du tonitruant Tsonga, l'autre le descendant du célébral Simon. Le belge de naissance fin tacticien reste d'un calme olympien sous ses boucles blondes. Lui aussi veut atteindre le sommet, mais évite de le crier sur les toits avec discrétion et humilité. Donc on a, a priori, deux joueurs au tempérament différent. Donc, à droite, Arthur Fils, 18 ans. À gauche, putain, Samuel reprend un café. À gauche, Lucas Van Haché, puisqu'on dit Haché, bien sûr, tout le monde le sait. 19 ans, voilà. Et ils commencent dimanche, les deux jeunes là, dans le tableau de Roland-Garros, et peuvent peut-être se retrouver face à face au deuxième tour. Voilà. On approche, attention, de la fin de ce stream. Attention, je vais vous poser une question, petite question d'actu pour déterminer qui va gagner notre grand concours quotidien. Sur l'horoscope, on n'y croit pas, c'est pas très scientifique, mais ça nous fait marrer. Qu'est-ce que je vais vous demander? J'ai aucune idée de ce que je vais vous demander. Hop, je sais. Le premier et la première qui me donne dans le chat à la fois son signe astrologique et sur la même ligne, la réponse à cette question gagne notre concours et se voit lire son signe. Donnez-moi, avec votre signe, le nom de la société d'Elon Musk qui travaille sur les implants cérébraux. Oh non ! Il y en a qui ont deviné ! Il y a Sol Vent qui a écrit « Vierge Neuralink » avant même que j'ai fini ma phrase. Tu as un implant. Tu as un implant. C'est diabolique. C'est diabolique ce qui vient de se passer. J'avais à peine commencé ma phrase, je n'avais pas dit implant cérébral, je n'avais pas dit Musk, que Solvan avait écrit Vierge Neuralink. Et ça, c'est diabolique. Ça, c'est diabolique. C'est très bizarre. Bon, tu as gagné. Tu as gagné, et largement. Vierge. Tiens, je vous ai pas remercié les modos. Merci beaucoup, Julo. Merci, MMG7F, d'être là ce matin. Vous êtes formidable. Vierge. Je zoome. Waouh, magnifique zoom. Vierge, cœur, attention les vierges. Certaines personnes n'hésiteront pas à profiter de votre gentillesse. Mais dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Les vierges, vous avez du cœur. Vous n'êtes qu'amour. Vous n'êtes qu'amour. Et des gens vont en profiter. Et moi je dis, ces gens-là, hein, ils méritent une petite tape derrière la nuque. Petite tape un peu appuyée, quoi, genre un petit coup sec, quoi. Hein ? À un moment, c'est pas possible, ça. Moi, je dis non. Vierge, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas abuser par les gens qui vont abuser de votre gentillesse. Hein ? Si vous identifiez une personne qui abuse de votre gentillesse, petit coup derrière la nuque, là, un petit coup sec, là. Hein ? Faites-moi confiance. Vous regardez la personne dans les yeux, comme ça. Un regard qui dit « je ne suis pas dupe de ce que tu fais, je ne suis pas dupe, tu abuses de ma gentillesse. » Vous vous approchez de la personne, vous faites un pas de côté et vous lui mettez un petit coup sec derrière la nuque. Voilà, tac. Façon de lui dire « stop ». Ok ? Petit conseil comme ça, c'est gratuit. Merci Armel Couvert pour les 18 mois d'abonnement. Réussite, vous êtes branché sur 10 000 volts, les vierges comme moi ce matin d'ailleurs, vous pouvez le voir, et vous vous agitez dans tous les sens. Oui, voilà. Bon, bah, profitez de ça justement pour mettre des petites tapes derrière la nuque, comme vous avez la pêche, c'est très bien. Forme, grande nervosité. les vierges, vous êtes waouh, vous êtes super en forme quoi. Voilà. Les piles électriques, exactement. Oh les coquins. D'habitude, je n'arrive pas à zoomer sur les signes. Et là, j'ai pu vous zoomer. Du coup, il y a des coquins qui ont lu Lion, qui ont lu Balance, qui ont lu Scorpion. Ouais, c'est interdit, hein. C'est interdit normalement, ça. Ah, oh, bande de tricheurs. Merci. J'étais content de vous retrouver ce matin pour la revue de presse. Vous m'avez manqué mardi, vous m'avez manqué mercredi, vous m'avez manqué jeudi, vous m'avez manqué vendredi. J'étais en question pour un champion toute la semaine. Je vous retrouve pour la revue de presse. Demain dimanche, il y aura une revue de presse. Lundi, il y aura une revue de presse. Et puis en fin de semaine, et puis tout le mois de juin, tous les jours, on va streamer. Ça va être une dinguerie. On se retrouve ce soir en direct du musée Guimet des Arts Asiatiques avec Foki, avec Marie Palot et avec tous les experts du musée. On va se régaler, c'est à partir de 20h. Et puis on va faire un petit raid. N'hésitez pas à me dire là maintenant dans le chat, tout de suite, là maintenant, tout de suite, le nom d'un streamer, d'une streameuse qui est en live et qu'on va raid pour soutenir un petit peu. Hein. Quelqu'un qui n'a pas encore trop de viewers, quoi. Pour donner un petit coup de main, ok ? Allez, je vous mets un petit peu de musique. Une petite pause musicale, 2 minutes pour trouver la destination et on fait ça, ok? À tout de suite, bande de belles personnes. Ça a l'air bien ça. Alors on va où, chouchou? J'ai trouvé, les amis, grâce à vos propositions, c'est une très très bonne idée. On va arrêter si jamais vous vous perdez en cours de route vers l'ami Eric qui, tous les vendredis maintenant, vient faire un peu la cuisine. C'est une tuerie, c'est délicieux dans l'hebdo Etienne. Sa chaîne, c'est Cheat Meal Hero, C-H-E-A-T 1000 M-E-L comme le repas underscore hero. Voilà, 35 viewers sur sa chaîne, vous êtes genre 3000. Vous allez voir, c'est un garçon qui est formidable, que j'aime beaucoup et qui tous les vendredis soirs à la maison pour accompagner de ses délicieux petits plats, eh bien l'hebdo Étienne. Ce sera encore le cas vendredi pour la dernière de la saison, sachant que là justement il est en train de faire les recettes, d'après ce qu'il m'avait dit hier soir, les recettes qu'il nous a fait hier soir. Donc si vous vous êtes régalé avec vos yeux hier soir avec plein de bonnes choses, et bien justement il est en train de streamer les recettes d'hier soir. Voilà, merci de me l'avoir rappelé. Faites coucou à Eric, c'est un mec qui est super. Et nous on se retrouve ce soir 20h sur cette même chaîne pour l'exposition Étienne, cette fois en direct du musée Guimet. Là aussi vous allez vous régaler au niveau des yeux, c'est une dinguerie. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous, mettez un peu de douceur, d'humanité et d'amour dans ce monde qui est un petit peu parfois... À ce soir, je vous aime très fort.